BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Boll.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, c'est donc parti pour VivaTech édition 2024. BFM Business, vous savez, va y consacrer beaucoup de temps dans les prochains jours. Dès ce soir, Tech&Co à partir de 20h qui sera sur place. Nous aussi, on vous en parle, cela dit, d'ici 20h, on va aller sur place Porte de Versailles dans un instant retrouver Nathan Cocampo. Sinon, il y a la Chine qui s'apprête à répondre aux Européens sur l'automobile en relevant les droits de douane sur leurs grosses voitures à essence. On va voir ça avec Laura Combeau dans un instant. Et puis en France, ça y est, on commence à savoir un petit peu plus sur cette réforme de l'assurance chômage. Oui, ça se confirme, on va bien durcir les conditions d'indemnisation à partir du 1er juillet. Caroline Morisseau va tout nous expliquer dans un instant. De tout cela, on parle bien sûr avec nos experts qui arrivent dès 18h30 comme tous les soirs, fidèles au poste. Voilà le programme non exhaustif. Nous sommes ensemble, donc nous, jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc c'est parti depuis quelques heures pour VivaTech édition 2024. Bonsoir Nathan Cocampo, on vous retrouve sur place donc à la Porte de Versailles à Paris où les échanges ont déjà commencé. Ça y est Nathan.
Bonsoir Guillaume. Oui, on a surtout entendu deux lettres ici à VivaTech. IA pour intelligence artificielle, vous le savez bien. Exemple, chez Airbus, j'ai pu monter dans un camion ultra connecté avec à l'intérieur un vrai cockpit d'A350, un simulateur d'avion finalement, mais pas n'importe quel avion, un avion autonome. Alors rassurez-vous, il y aura toujours un pilote à l'intérieur, mais l'idée derrière ce test, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, le maximum de données possibles pour détecter les obstacles sur la route, pour imaginer finalement l'avion de demain, un avion où les algorithmes aident le pilote à prendre les bonnes décisions, le meilleur itinéraire possible, la meilleure arrivée possible à l'aéroport pour fluidifier au mieux le trafic. Je vous parle d'Airbus, mais toutes les stars de l'IA sont bien présentes au salon cette année. Je pense à l'informaticien français Yann Lequin. Je pense aussi au responsable d'OpenAI et l'intervention que tout le monde attend ici. Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, va échanger avec le public en visio conférence demain et il sera évidemment question là aussi d'intelligence artificielle à suivre sur notre antenne. Plus largement, l'objectif cette année c'est de dépasser le record de l'année dernière, le record absolu de 150 000 visiteurs. Alors avec plus de 2500 startups présentes ici, 2800 exposants dont des géants comme Microsoft, Google, Amazon, cette édition 2024 s'annonce vraiment comme une très belle édition. La foule a en tout cas, comme vous le voyez, bien répondu présent aujourd'hui.
Nathan Cocampo, donc à la porte de Versailles pour BFM Business. Emmanuel Macron, vous savez, disait il y a quelques jours vouloir faire de la France une puissance de l'IA. Ce VivaTech va bien sûr y contribuer, mais écoutez ce que disait ce matin Arthur Mensch, vous savez, fondateur de Mistral, dont la parole est rare. Il était auditionné à l'Assemblée nationale et il l'a dit, il n'a pas vraiment l'impression qu'on ait pris conscience des révolutions qu'allait entraîner l'intelligence artificielle. Ne serait-ce que sur le marché du travail, par exemple, écoutez.
Pour beaucoup de métiers, y compris des métiers du service, y compris des métiers du service relativement bien payés aujourd'hui, c'est des métiers qui vont, alors je ne vais pas dire disparaître, mais très largement modifiés dans les 10 prochaines années. Donc ça, je pense qu'il faut largement l'anticiper dans une économie qui est dominée par le service en France. Ça veut dire que la structure du travail et du marché du travail va profondément changer dans les 10 prochaines années et je ne suis pas sûr que le législateur en ait parfaitement conscience et parfaitement conscience des changements que ça apporte.
Voilà, le cofondateur de Mistral, la licorne française, Arthur Mensch, ce matin à l'Assemblée nationale. Je vous disais, il y a beaucoup de monde à VivaTech. Arthur Mensch, donc, l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, la patronne d'Orange, Christelle Edman, et puis il y a Bernard Arnault, le patron de LVMH. Bernard Arnault, qui est en marge de cet événement, vient de renouveler son partenariat avec le géant chinois Alibaba. Ensemble, ils vont accélérer sur le développement de l'IA générative au bénéfice du luxe, bien sûr. Pauline Tadevin nous raconte ça.
Ce matin, côté français et côté chinois, on se satisfait de renouveler pour 5 ans ce partenariat dont on ne divulgue pas les termes financiers. Mais les enjeux sont considérables. La Chine est un marché très important. On a besoin d'y travailler avec les meilleurs, rappelle le responsable tech de LVMH. Son homologue chez Alibaba se félicite de cette opportunité. Depuis le début de leur collaboration en 2019, il a été question de data et de cloud, d'intelligence artificielle. Ces derniers mois, l'IA générative est au cœur, en particulier pour les activités de LVMH en Chine. Il y opère 1400 boutiques et y compte 28 000 salariés. Grâce à ce partenariat, il fournit à ses vendeurs des applications pour personnaliser de plus en plus leur offre à leur clientèle. L'IA aide aussi ses salariés en Chine au quotidien pour effectuer des présentations ou des résumés de documents. Ce que LVMH propose à ses équipes ailleurs via l'intelligence artificielle qu'il a créée à partir de ChatGPT, mais pas question bien sûr d'importer en Chine une IA américaine. Le choix d'Alibaba sur place s'est donc imposé à LVMH.
Voilà pour LVMH et voilà donc pour ce VivaTech dont on va largement reparler jusqu'à 20h sur BFM Business. On sera avec deux experts du secteur entre 18h15 et 18h30. Et puis je vous le disais, édition spéciale de Tech & Co avec François Sorel sur place à partir de 20h sur BFM Business. 18h05, la Chine justement, on en parlait. Il semblerait qu'elle soit sur le point de préparer un mauvais coup à l'industrie automobile européenne. Vous savez que dans 2 semaines, Bruxelles pourrait dégainer de possibles droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Eh bien, apparemment, ça y est, la Chine est en train déjà de préparer sa riposte. Laura Cambo.
Dernière menace en date diffusée via un quotidien pro-Pékin, le Global Times. Dans un article, un dirigeant du Centre chinois de recherche automobile lance un appel. Il faut monter les droits de douane pour les voitures importées. Sur les grosses cylindrées, les taxes à l'import pourraient passer de 15 à 25%. Une hausse pour réduire les émissions de carbone selon la version officielle. En réalité, c'est une allusion directe aux berlines allemandes. Médias, lobbies, réseaux sociaux, Pékin utilise tous les moyens de pression et vise des secteurs symbolique, souvent sensible politiquement, comme l'aéronautique ou le vin. En janvier déjà, la Chine avait annoncé une enquête sur les subventions aux eaux de vie avec dans le viseur le cognac. Des tensions commerciales qui s'exacerbent à l'approche du 5 juin, date de la décision européenne et l'adoption probable de taxes douanières relevées pour les véhicules électriques chinois. La semaine dernière, c'est Joe Biden qui a annoncé multiplier par 4 les droits de douane pour les marques chinoises, BYD, MG Motor ou encore Leapmotor.
Voilà donc la réponse de la Chine aux velléités de l'Europe, donc de relever les droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Alors, hasard du calendrier ou pas, il y a eu cette petite phrase aujourd'hui du patron de Stellantis, Carlos Tavares, qui l'a dit dans une interview à l'agence Reuters. Pour lui, les droits de douane sur les véhicules électriques chinois importés en Europe aux États-Unis sont un piège. Un piège majeur pour les pays qui s'engagent dans cette voie. Stellantis, vous le savez, a annoncé qu'il commencerait à la rentrée à écouler en Europe des véhicules électriques conçus justement avec son partenaire chinois, Leapmotor. Et puis, puisqu'on parle auto, Renault a confirmé aujourd'hui qu'il ne discutait plus avec Volkswagen d'une éventuelle collaboration pour bâtir ensemble, vous savez, la future Twingo électrique. Directeur général Luca De Meo, directeur général de Renault, l'a confirmé en marge de VivaTech. Précisément, 18h07, on revient en France avec donc cette fameuse réforme de l'assurance chômage. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Morisseau. Réforme dont on connaît désormais les grandes lignes parce que ça y est, la ministre du Travail a commencé à en parler ce matin aux partenaires sociaux, Caroline.
C'est ça, elle a reçu aujourd'hui le patronat et les syndicats à tour de rôle tout au long de la journée. Effectivement, le gouvernement est enfin sorti du bois. Alors sans surprise, il veut notamment durcir les conditions d'ouverture des droits. Il faudra désormais avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers, non plus 6 sur les 24 derniers pour être indemnisé. Autre mesure, le gouvernement veut durcir encore un peu plus la modulation des règles en fonction de la conjoncture. La durée d'indemnisation avait déjà été abaissée de 25% en février dernier, dans la mesure où le chômage était sous les 9%. Là, il veut aller un cran plus loin et baisser à nouveau cette durée d'indemnisation de 40% cette fois, si le taux de chômage tombe sous les 6,5%. En ce qui concerne les seniors, les bornes d'âge vont être décalées, hein, ces bornes d'âge qui permettent d'avoir une durée d'indemnisation plus longue. Donc concrètement, il faudra désormais avoir 57 ans et non plus 55 pour bénéficier d'une durée d'indemnisation plus longue jusqu'à 27 mois. Et puis enfin, les employeurs ne seront pas épargnés puisque le gouvernement, le ministère du Travail en tout cas, veut généraliser à l'ensemble des secteurs le bonus-malus, ce dispositif qui consiste à alourdir les cotisations des entreprises qui abusent des contrats courts.
Voilà ce qui a été annoncé aujourd'hui aux partenaires sociaux. Hein. Voilà.
Exactement. Alors le ministère du Travail dit que tout cela peut encore bouger, hein, qu'il va tenir compte de la concertation. Évidemment, les syndicats sont convaincus que tout est arbitré, tout est plié. Tout cela sera annoncé en début de semaine prochaine. Et l'objectif est clair, en tout cas. Le gouvernement a annoncé qu'il visait 3,6 milliards d'euros d'économies, 90 000 emplois créés et même 3 milliards d'euros d'économies en plus, donc 6,5 milliards au total, si le taux de chômage passait sous les 6,5% et donc si on baissait à nouveau la durée d'indemnisation.
Ce qui n'est pas vraiment le sens de l'évolution de la courbe du chômage à l'heure actuelle.
Non, c'est fortement improbable.
C'est fortement improbable. Voilà en tout cas ce qui a été dit aujourd'hui aux partenaires sociaux. Merci beaucoup Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. Un mot d'entreprise, on y revient, c'était attendu, la holding. Et plusieurs entités du groupe Indexia ont été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce aujourd'hui. Le PDG d'Indexia, Sadri Fegayer, qui avait bâti un empire, d'abord dans l'assurance téléphonique, puis dans les services liés aux produits médias. Ce PDG sera jugé, lui, à l'automne prochain en correctionnel. Cette fois, il sera jugé pour pratique commerciale trompeuse. Et puis, comme on dit, toute autre chose pour terminer. Alors, avec ce qui est pour le coup là une véritable machine à cash. 45 ans après le premier opus, le nouveau Mad Max va sortir après-demain vendredi. 170 millions de dollars de budget, jamais la Warner n'avait mis autant d'argent sur cette franchise. Régine Ralèche.
En 1979, deux Australiens, George Miller et Byron Kennedy, tournent leur premier long métrage, Mad Max. Une histoire apocalyptique qui revient sur les désastres causés par l'effondrement et la rareté des ressources. Malgré le peu de moyens et un visuel un peu artisanal, Mad Max est un véritable carton. Pour seulement 350 000 dollars investis, le film rapporte 100 millions au box-office, ce qui en a longtemps fait le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Pour les trois opus qui ont suivi, le succès était toujours au rendez-vous et à chaque fois, les moyens ont été plus importants. Avec une production record de 100 millions de dollars pour Mad Max Fury Road en 2015, qui est le plus gros succès de la saga. Pour le dernier opus, George Miller n'a pas lésiné sur les moyens. La production de Furiosa a coûté 168 millions de dollars. La guerre des ressources reste un thème central, avec cette fois-ci l'accent mis sur un monde confronté à une pénurie d'eau.
Voilà, Rachel Ralèche avec ce Mad Max qui sort donc en salle pour nous en Europe vendredi prochain, 18h11. On va sur les marchés tout de suite, retrouver Aude Kersulec depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Aude, comment ça s'est passé ce mercredi à la Bourse de Paris ?
Mercredi rouge, hein. On a enchaîné une deuxième séance de baisse sur les marchés européens, moins 0,6% à Paris. On a perdu les 8100 points, on est à 8092 points ce soir. C'est vrai que c'était rouge aussi à Francfort, moins 0,2% ou à Londres. Alors on a notamment baissé parce que le luxe a pas mal reculé. Hermès perd ce soir à 4%, LVMH 2%. Tout ça c'est dû à une news sur le secteur Chanel qui a en fait publié hier soir. Il y a eu des bons résultats mais des commentaires un petit peu moins positifs de la directrice générale de Chanel qui fait état d'un environnement difficile. Et finalement, comme Chanel n'est pas présent en bourse, c'est Hermès qui paie les pots cassés, car c'est finalement la valeur qui lui ressemble le plus dans l'ultra-luxe, ce à quoi tend Chanel. Donc Hermès qui perd 4,2%, et finalement toutes les grosses capitalisations du CAC qui sont orientées à la baisse, parce qu'on avait aussi Total Energy, la troisième baisse du CAC. Et puis aussi c'est de brouilles de droits de douane sur les importations chinoises de véhicules qui ne nous ont pas franchement mis les investisseurs dans un bon état d'esprit, et on était relativement prudent, relativement noir aujourd'hui, avec un élément macro aussi, l'inflation britannique qui a moins reculé que prévu. Pour mémoire, c'est ce qui nous avait fait monter il y a une dizaine de jours, le fait que la Banque d'Angleterre puisse baisser ses taux au mois de juin. Là, les anticipations, elles sont un peu moins favorables. En attendant, on a la tech qui montait à Paris, Dassault Systèmes et ST Microelectronics qui montaient de plus de 3%, en attendant évidemment les résultats de Nvidia. Ce sera 22h20 ce soir avec des attentes pharaoniques. Hein, le titre pourrait exploser si ces attentes sont largement battues. En attendant, le Nasdaq est très légèrement dans le vert, plus 0,06%. Et donc nous étions dans le rouge aujourd'hui à moins 0,6%, Guillaume.
Merci beaucoup, Odo de Kersulek, donc depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. Bon, on fait un petit tour du côté de Wall Street, allez, rapidement, pour voir effectivement ce qui se passe. Le Dow Jones qui perd 0,15%, 39 814 points, et puis l'indice Nasdaq, Aude le disait à l'instant, lui qui est stable en ce moment, parfaitement stable, 16 832 points. Tout ça à la mi-séance, 18h13. Vivatech 2024 a donc commencé il y a quelques heures à la porte de Versailles. Ben on en parle avec nos invités dans un instant jusqu'à 18h30, bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente la grande interview.
Allez, 18h17 sur BFM Business, Vivatech, donc c'est parti, porte de Versailles. Vous savez qu'on vous fera suivre bien sûr l'événement au jour le jour sur BFM Business au cours des prochains jours. Je vous redonnerai le programme dans un instant. Bon, on va en parler, nous, une 12-13 minutes avec nos invités ici en plateau. Adrien Chaltiel qui est avec nous. Bonsoir Adrien, bienvenue, fondateur d'Eldorado, spécialiste de la French Tech. Et puis Philippine Leccia qui est avec nous. Philippine, bonsoir.
Bonsoir.
Co-fondatrice et CEO de MyWay Technology, l'une de ces milliers de startups qui vont parcourir les allées de Vivatech pendant 2-3 jours. Vous nous raconterez dans un instant ce que c'est que le parcours d'une start-up sur Vivatech. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Alors, je rappelle les chiffres de l'an dernier, 150 000 visiteurs, 11 000 start-up représentées, quelques 2 500 investisseurs. Est-ce qu'on est parti pour attraper le CES de Las Vegas ou on est encore loin, Adrien, pour vous là,
C'est le but en tout cas, hein, c'est de devenir un salon de référence mondial dans l'écosystème mondial de la tech.
Ouais.
Les pouvoirs publics se poussent beaucoup pour qu'il y ait...
Alors, attendez, on a un petit problème de micro. On va résoudre ça dans un instant. Philippine, vous connaissez Las Vegas, vous l'avez fait ou pas le
CES ?
Alors,
pas encore eu la chance d'y aller. Ouais. Mais effectivement, c'est en tout cas Vivatech, un rendez-vous incontournable, que ce soit pour la scène européenne ou mondiale, où toutes les startups, comme les entreprises, attendent ce rendez-vous pour découvrir les nouvelles innovations, savoir quels pourraient être les prochains projets à lancer.
Oui, c'est ça.
C'est un événement aujourd'hui effectivement majeur qui pourra talonner les plus grands, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs.
On espère, Adrien, vous y croyez, ça y est, votre micro est réparé.
C'est bon, bah, écoutez, oui, j'y crois, hein, franchement, c'est la 8e édition, donc ça fait quand même un salon qui est quand même de plus en plus installé, qui est très international. Cette année, il y a le Japon qui est le pays hôte de Vivatech, et puis qui a 150 000 visiteurs quand même, sur 4 jours, il y a une journée grand public.
Casting peut-être un petit peu moins relevé que l'an dernier, on disait.
Ah, parce que, alors, je pense qu'ils ont subi aussi le changement de date dû aux Jeux Olympiques.
Oui, c'est ça. C'est
ce qui fait qu'il y a eu quand même beaucoup. Il y a Elon Musk qui revient, mais en visioconférence. C'est vrai que par rapport aux autres années où il y a eu Mark Zuckerberg, Elon Musk en présentiel, etc. Mais cette année, il y a Venus Williams, Serena Williams.
Donc il y a des personnes. Qu'on diffusera vendredi 17h à notre.
Ouais, en direct, oui, j'imagine. Ouais, il y a un petit peu moins de stars, on va dire, de la tech mondiale, mais il y a quand même beaucoup d'influence de ce salon de plus en plus chaque année.
Ouais. De plus en plus. Qu'est-ce que vous venez chercher cette année à Vivatech, des financements? On m'avait dit on est en train de réaliser une levée de fonds.
Tout à fait. Je pense que un salon comme Vivatech, c'est une opportunité pour trois choses majeures. La première, effectivement, c'est du réseau, construire un réseau professionnel, que ce soit à la fois trouver des clients comme des investisseurs. Et un salon pareil, c'est une super opportunité pour se présenter, tisser des liens et pourquoi pas effectivement lever des fonds. Une première chose. La deuxième, c'est aussi d'accéder à des speakers de renommée internationale, s'instruire sur certains sujets, se connecter avec des peers. Et puis le dernier, c'est bien sûr une vitrine aussi pour nos entreprises, pour se faire connaître, surtout quand on débute.
MyWay, votre start-up qui a un an, là, c'est... Alors, on fait le pitch en quelques secondes, Philippine. C'est un assistant personnel pour les commerciaux de terrain. Qu'est-ce que vous faites pour les commerciaux
Alors, en fait, on a plusieurs algorithmes qui analysent les données historiques des entreprises pour générer des opportunités commerciales. Et quand elles sont analysées, on les pousse auprès des commerciaux pour qu'ils puissent, en fait, proposer le bon produit au bon moment pour chaque client ou prospect, et donc maximiser la valeur. Donc
vous dites c'est un plan de bataille personnalisé pour le commercial de terrain.
C'est ça.
Mais vous réinventez la profession là complètement.
On les aide. On tâche de les aider et de faire en sorte qu'ils créent toujours plus de liens avec leurs clients, parce qu'en fait aujourd'hui ils sont dispersés sur d'autres tâches, qui les éloignent de leur cœur de métier, et pourtant c'est ça où ils sont bons. Alors, tisser ce lien.
Moi ça m'intéresse de savoir. Alors on disait quelques 11 000 startups représentées l'an dernier. Cette année vous en faites partie, vous, de ces startups, ces milliers de startups. C'est quoi la journée type d'un start-upper, d'une start-upeuse lâché lâcher comme ça dans la nature de Vivatech pendant 48 heures. Ça se prépare longtemps à l'avance? Comment ça se passe, Vivatech?
Alors, ça dépend. Mais effectivement, la préparation, elle commence quelques semaines auparavant pour prendre rendez-vous, que ce soit justement avec des investisseurs ou avec des peers, donc d'autres startups, puisqu'en fait, c'est l'occasion aussi de tisser des collaborations et de savoir comment on peut être complémentaire et faire appel aux compétences des uns et des autres.
Vous saviez il y a quelques semaines qui vous vouliez viser, qui vous vouliez rencontrer là pendant ces deux jours à Paris?
Alors, en partie, tout à fait, pour certains fonds d'investissement. Et après, pour les autres startups, c'est assez opportuniste. Et donc, en fait, on remplit l'agenda au fur et à mesure. On regarde également les conférences et les speakers qui sont annoncés. Et on boucle l'agenda, du coup, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, avec parfois même des événements qui se suivent pour continuer à faire connaissance et développer ce réseau.
Donc là, vous allez chercher des fonds pour votre levée de fonds. Là, voilà.
En partie, oui.
En partie, c'est ça.
Oui, ouais, tout à fait.
Bon, première journée était prometteuse ou pas?
Alors, on commence vendredi.
Vous commencez vendredi.
On commence vendredi, on s'occupait de nos clients là jusqu'à présent. Donc, il faut séquencer. Hein. On ne peut pas toujours profiter de ce type d'événement pour rencontrer du monde. Et on attaque donc vendredi, effectivement, pleine balle.
Eh ben, on vous souhaite plein de bonnes choses. Adrien, comment est-ce que va la French Tech? On se souvient que l'an dernier, c'était pas vraiment la joie, si on peut résumer ça comme ça. Il y avait des financements un petit peu plus éteints, il y avait des réductions d'effectifs, il y avait quelques déconvenues aussi dont on avait parlé. Je me rappelle du réassureur Luco notamment qui avait disparu. Est-ce que ça va mieux fondamentalement? Est-ce que vous dites on est en train encore de subir ce contre-coup de l'année dernière?
C'est vrai, c'est un écosystème qui s'est transformé, qui a subi une certaine morosité, notamment dans l'accès au financement.
Ouais.
Il y a eu tout un hiver un petit peu long à partir de 2022-2023 qui commence à repartir de plus belle pour plein de raisons, en particulier l'essor de l'intelligence artificielle, mais aussi des startups dans le climat, l'impact, la mobilité, qui sont vraiment les secteurs phares qui sont porteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'argent de la part des investisseurs à déployer. Les talents ne manquent pas dans l'écosystème en termes d'entrepreneurs. On a des nouvelles générations d'entrepreneurs, ce qui fait qu'on arrive à trouver un certain nouvel essor qui repart de plus belle après ces deux années qui étaient un petit peu plus difficiles.
Les talents, on les a. Je sais plus qui disait, on a l'innovation en France, en Europe, on a l'innovation, c'est pas vendre nos innovations en fait. C'est un petit peu le problème. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est sûr que nous, on a un périmètre de marché qui est moins évident que les États-Unis ou en Asie ou en Chine. Dans le sens où on a l'Europe, mais c'est assez fragmenté en termes de marché. Quand on a une start-up qu'on crée en France, qu'on veut développer en Allemagne, c'est quasiment recréer une start-up en Allemagne. Ou un produit, il faut s'adapter aux clients, au marché, à l'écosystème de l'investissement, etc. Donc on est un peu plus long à trouver des start-up qui peuvent s'internationaliser.
Est-ce qu'on a réduit un petit peu l'écart en termes de... Est-ce que le marché du capital risque français-européen réduit un peu l'écart finalement avec les États-Unis aujourd'hui? Est-ce que ça commence à aller un petit peu mieux? Vous dites le trou est encore béant.
Le trou restera toujours très important parce que c'est un écosystème qui est vraiment très très puissant aux États-Unis avec un amont de capitaux très fort. En revanche, en termes de capacité de croissance et de progression, on fait partie des plus grands écosystèmes mondiaux. En termes d'accélération, on a des soutiens des pouvoirs publics qui sont très forts, ce qui fait que ça pousse l'innovation grâce au financement.
Philippine Leccia pour MyWay, vous êtes d'accord avec ça finalement en termes de financement? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous allez chercher les financements côté français? Vous trouvez?
Bien sûr. Et on a quasiment terminé effectivement notre levée de fonds.
Ouais.
Donc il s'agit d'aller chercher les derniers kilomètres qui sont toujours...
Les fameux derniers kilomètres.
Voilà, assez parfois éreintants. Et je partage effectivement le constat d'Adrien. En rajoutant peut-être une chose, c'est que l'innovation pour l'innovation, c'est très bien, mais effectivement, il n'y a pas de débouché marché. Il faut pouvoir le vendre, il faut pouvoir que ça serve en fait le business et des nécessités en fait de ces entreprises au quotidien. Et donc, ces applications business, elles sont fondamentales et elles doivent être au cœur en fait de la création des startups, à mon sens, d'une bonne partie. Il y en a d'autres comme dans la deep tech aujourd'hui qui ont des innovations de rupture, mais qui justement manquent encore ces dernières applications. Et donc il faut trouver le juste équilibre entre des startups qui vont pouvoir avoir cette recherche innovante et développer le futur de demain, et d'autres effectivement qui se rapprochent de ces entreprises pour les servir dès aujourd'hui. Et je pense qu'on est déjà à ce stade justement de rapprochement avec les entreprises qui investissent massivement et qui se rapprochent de ces startups. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vit et c'est vraiment pour le coup positif, puisque c'est un constat qui a été fait aux États-Unis et dans d'autres géographies auparavant. Et aujourd'hui, les grands groupes et des entreprises moyennes n'ont plus peur justement de s'associer à des startups donc, même avec l'IA.
Est-ce qu'on dit que la French Tech fait désormais partie des écosystèmes les plus attractifs pour les investisseurs internationaux?
Voilà. Oui, complètement.
Ça a été long quand même.
Ça a été long. C'est vrai que alors ça a été à la fois long et à la fois quand même, ça fait 10-15 ans que l'écosystème commence à se consolider avec la French Tech, BPI France, etc. Oui. On a Station F qui est un des plus grands campus de start-up au monde et maintenant Vivatech aussi depuis 8 ans. Et là, on le voit, hein, 2600 investisseurs qui viennent sur 3 jours à Vivatech. 80% sont internationaux, avec énormément d'investisseurs européens, américains, même qui viennent d'Asie.
Mais ce qu'on entend dire Adrien, c'est qu'il manque, malgré tout. Qu'est-ce qui manque à l'écosystème français? Il manque des grosses sorties.
Exactement.
Il manque des gros tickets.
Voilà. Il manque des rachats.
Je sais plus qui mentionnait une opération à 5 milliards récemment du côté de la Grande-Bretagne. Je disais ça ce matin dans la presse. En France, on ne fait pas ça encore.
Non, tout à fait. Les deux enjeux que vous pointez sont vraiment ceux qui sont sur lesquels il faut travailler. C'est d'avoir des fonds qui sont capables de mettre des grands tickets d'investissement dans ce qu'on appelle les growth stage ou les late stage, donc les tours de table qui sont un peu plus avancés, et également des possibilités de sortie, c'est-à-dire d'avoir des entreprises qui rachètent des startups avec une plus-value qui est faite sur les investissements passés et donc d'avoir un cycle économique dans l'investissement qui est encore plus fort qu'il l'est aujourd'hui.
Bon, deux minutes, encore une question à vous poser sur l'IA qui sera bien sûr le fil conducteur. On parle beaucoup d'innovation, on parle de plus en plus de réglementation. Vous savez que c'est un reproche qu'on fait souvent aux Européens. Innover, oui, mais on a tendance à trop vouloir réglementer avant d'innover. Vous êtes d'accord avec ce...
Il y a deux thèses qui s'affrontent sur ce sujet, mais oui, forcément c'est une des thèses, c'est-à-dire de réglementer avant qu'on sache la maturité de la technologie. Et à la fois il y a la thèse de la rapidité à laquelle va l'intelligence artificielle, et quelquefois peut faire peur, hein, puisque on le voit même ChatGPT qui a sorti une nouvelle technologie rien qu'en un an de développement, on voit que ça va très vite.
Il y avait une nouvelle démonstration apparemment de la nouvelle version cet après-midi
exactement à Vivatech avec la reconnaissance vocale et la conversation vocale. Donc voilà, c'est autant d'enjeux sur la liberté d'utiliser des contenus qui sont tiers, pour pouvoir les réutiliser, sur les limites aussi qui sont données par rapport aux utilisations qui peuvent en être faites. Ouais. Donc il y a les deux thèses qui s'affrontent. Je pense que ça reste simple dans le sens où l'Europe réglemente comme les États-Unis réglementent ou l'Asie. Les écosystèmes commencent un peu à se polariser grâce aux réglementations ou à cause des réglementations. On va voir, mais les startups savent faire.
Comment on regarde ça chez MyWay Philippines aujourd'hui?
Alors nous,
réglementation, voilà, les limites.
Ouais.
Les limites infranchissables, les limites indéfinissables par essence, finalement.
Alors, pour le coup, nous, on n'est pas concernés, effectivement, par énormément de restrictions aujourd'hui sur l'utilisation des données. Le point sur lequel, par contre, on passe beaucoup de temps et on est très pointilleux, c'est tout ce qui est sujet de confidentialité de données avec nos clients, de la protection de leurs données, où est-ce qu'elles sont stockées, comment elles vont être utilisées. Et ça, c'est des sujets qui sont très bien encadrés et sur lesquels, aujourd'hui, d'ailleurs, les entreprises sont bien au fait. Donc, ça se fait assez naturellement et ce n'est pas une contrainte, en tout cas, pour nous, aujourd'hui. Ça peut l'être pour d'autres start-up, mais on n'est pas concerné. Donc effectivement, on l'aborde assez sereinement et avec une éducation de nos clients et prospects qui est très bonne.
Et ben voilà pour l'IA qui sera donc le fil conducteur de cette 8e édition de Vivatech. Et puis on va parler mobilité, on va parler tech durable aussi. Ça aussi, c'est des sujets qui vont nous occuper.
Beaucoup d'impact,
Climate Tech. Bien sûr.
Ouais, c'est un des secteurs phares qui est poussé.
C'est le directeur du salon de Vivatech qui disait: nous sommes là pour vous montrer ce qui va se passer au cours des 12 à 24 prochains mois, finalement. C'est un peu ça tous les ans.
Exactement. C'est le côté prédictif.
Absolument.
Et innovant.
Voilà, bon, vous souhaite bon courage parce qu'on imagine que vos prochains jours seront assez chargés du côté de Vivatech. Voilà, avec beaucoup de monde, on verra si on bat le record des 150 000 visiteurs, des quelques 11 000 startups, des quelques 2500, 2600 investisseurs. Ça, c'était les chiffres de l'an dernier, on espère les battre cette année. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. Merci. En tout cas. Philippine Mlecia, cofondatrice et CEO de MyWay, et Adrien Chaltiel, fondateur d'Eldorado, spécialiste de la French Tech. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés ce soir sur le plateau de BFM Business. Il est 18h30.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, on est reparti en direct. Good evening business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à
tous. Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous comme tous les soirs jusqu'à 20h. Puis nos experts qui sont venus, ils sont deux ce soir, mais ils sont de grande qualité. Cyril Lachet va être avec nous. Cyril, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur de l'agence de communication Silence. Et Emmanuel Lechypre qui est avec nous également.
Mais qui parlera quand même, évidemment.
Qui parlera quand même.
Et qui parlera pour deux. Voilà.
Si ce n'est pour trois, conformément à ses habitudes.
Bonsoir.
Bon, beaucoup de choses ce soir ensemble à voir dans l'actualité, à commencer par, on en parle à l'instant, Vivatech, 8e édition, porte de Versailles à Paris. Je vous redonne les chiffres de l'an dernier, 150 000 visiteurs, près de 11 000 startups représentées, près de 2 500 investisseurs, ça c'était l'an dernier. Et cette année, on le sait une fois de plus, c'est l'IA qui sera le gros sujet de discussion.
Et oui, Emmanuel Macron, rappelez-vous, disait en début de semaine vouloir faire de la France une puissance de l'intelligence artificielle. Écoutez maintenant ce que disait ce matin Marina Ferrari, la secrétaire d'État chargée du numérique. Pour elle, la France avance très vite sur le sujet. On écoute et on en débat tout de suite.
Alors, Marina Ferrari, qu'on va peut-être écouter. Est-ce qu'on peut venir dans l'oreillette, Simon ?
Le prix qu'on a fait à l'époque sur la Startup Nation, qui est en train de devenir la Deep Tech Nation, est payant. C'est très important, les investissements étrangers structurants, non seulement pour l'emploi, mais aussi pour nos capacités aujourd'hui, pour notre hardware, un peu, j'ai envie de dire. Vous savez que l'enjeu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est aussi nos capacités de calcul. Un des gros investissements qui a été annoncé, c'est celui de Microsoft sur un nouveau data center en France, qui devrait contenir 25 000 GPU. Et vous l'avez vu, pour tous ceux qui sont férus aujourd'hui d'intelligence artificielle, la commission sur l'intelligence artificielle, dans son rapport, nous préconisait d'implanter 30 000 GPU supplémentaires par an en France. Donc, en un investissement, on atteint quasiment l'objectif. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, voilà, il faut raisonner au niveau européen, il faut raisonner au niveau mondial, et que la France est un pays de plus en plus attractif. Et ça, c'est grâce à la politique que nous conduisons, et c'est heureux.
Voilà, Marina Ferrari avec François Sorel. Interview pour écouter en intégralité dans Tech & Co à partir de 20h, bien sûr, sur BFM Business.
Bon, alors, écoutez, je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvais augure. Marina Ferrari a raison, mais il n'en reste pas moins qu'on est quand même très en deçà de ce qu'on devrait faire. Je trouve que Emmanuel Macron, par ailleurs, qui était très bullish, comme on dit, sur le Digital Act, sur l'intelligence artificielle, il l'est beaucoup moins. On entend beaucoup de déclarations, mais dans les faits, quand on regarde en 2023, la France a attiré 8 milliards d'euros d'investissement dans les start-up tech. C'est rien du tout. En Grande-Bretagne, c'est plus du double. Bon, évidemment, je vous parle pas des montants aux États-Unis. Cyril ?
Alors, je suis assez d'accord avec vous. Il y a un malheureux télescopage d'actualité, si je puis dire, qui est qu'en même temps, le même jour, on apprend. Alors, peut-être que c'est fait exprès, vous me direz, qu'Amazon va investir 15,7 milliards dans des data centers en Espagne.
10 milliards l'an dernier. 15,7 voilà. milliards en Espagne. 10 milliards l'an dernier en Allemagne.
C'est vrai que ça gâche un peu la fête. Après, j'ai quand même envie d'être optimiste, ça bouge, ça bouge certes sur des niveaux encore pas suffisamment importants, mais il y a des bonnes initiatives. Il y en a une qui me marque dans les annonces du gouvernement, c'est sur la formation. En fait, hein, l'éducation, de toute façon, maintenant l'enjeu pour l'intelligence artificielle, c'est l'éducation, et puis on y reviendra peut-être, mais c'est de l'éducation j'allais dire presque du collège ou du primaire à la formation de grands ingénieurs. Et on le voit très bien, on a un besoin de main-d'œuvre colossal, donc il y a un problème de ressources humaines. Prenez une étude qui a été publiée par la plateforme Malte, qui est l'une des plateformes leaders en Europe de mise en relation de freelance. Oui. Les missions demandées à des freelances ont augmenté de 300% en 2 ans. Donc, les entreprises cherchent désespérément partout des compétences en intelligence artificielle qu'elles n'ont pas encore en interne, et donc elles font appel à des compétences externes. Et donc ça bouge, effectivement, il faut accompagner le mouvement, mais c'est vrai que malheureusement, Amazon a un peu gâché la fête cet après-midi, directement.
Ambiance un peu inopportune.
Oui, enfin, c'est intéressant quand même ce que dit Cyril, parce que c'est vrai que sur le sujet des offres d'emploi, donc ça augmente grosso modo trois fois plus vite que dans les autres secteurs, avec des salaires qui sont 25% plus élevés que dans d'autres secteurs. Donc, enfin, il y a des vrais débouchés. Il faut former les gens, il faut les encourager à s'engager dans cette filière.
Oui, mais ça va au-delà de ça. Moi, j'avoue que je comprends pas très bien l'obsession pour vouloir rivaliser avec les Américains, les Chinois sur l'innovation et sur la conception de ces technologies de l'information. C'est pas ça qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est d'être les champions de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce qui compte, c'est pas d'être ceux qui l'inventons. Ce qui compte, c'est d'utiliser correctement et très bien cette intelligence artificielle qui sera peut-être inventée par d'autres, avec un bémol sur les données quand même. Mais là, sur les données, on est plutôt très bon. Quand vous regardez les données qu'utilisent les Américains, par exemple, en matière de santé, Vous voyez qu'ils arrivent à reconstituer, par exemple, pour essayer de simuler des expériences ou des l'effet de traitement. On voit bien qu'ils essaient de reconstituer des séries Brick-Brock, etc. Nous, si on voulait en France, on aurait des séries longitudinales remarquables, etc. Mais c'est un problème de ce que la loi permet ou pas d'utiliser. Donc, on voit bien que sur les données, on est très bon. Il y a ce verrou à faire sauter pour qu'on puisse quand même utiliser davantage ces données. Et après, ce qui compte, c'est d'avoir les meilleures entreprises du monde en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Moi, ce que j'ai envie, c'est pas qu'on ait quelques start-up qui inventent quelques trucs dans leur coin, même si c'est important d'avoir peut-être des petits bouts de spécialisation, d'être les champions sur des petits bouts.
On va, ce qui non, compte, c'est ce qu'on va jouer, c'est la spécialisation. Compte, c'est que, mais justement, mais c'est ce qu'on va jouer.
Ce qui compte, c'est que L'Oréal soit le champion du monde de produits de beauté, qui soit le plus performant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, que Dassault le soit dans l'aviation,
que Saint-Gobain le soit dans les matériaux de construction, que LVMH avec Alibaba,
que LVMH le soit dans l'industrie du luxe, etc. Donc j'avoue que effectivement, vous, enfin honnêtement, vous l'avez dit quand vous mettez les chiffres. Encore une fois, on est dans un rapport globalement et comme sur beaucoup d'autres sujets, on est sur un rapport où ce qui serait nécessaire, c'est 10 fois ce qu'on fait vraiment. Bon voilà, et donc, donc là effectivement quand vous voyez les investissements d'Amazon et là encore une fois ce qui compte c'est les sommes que vous mettez sur la table, hein, c'est pas des points de PIB, etc.
De ce niveau, ça jette un froid quand même.
Donc ça compte, mais encore une fois moi je dis que ce qui compte c'est d'avoir les entreprises les plus performantes dans l'utilisation de l'IA et de la donnée, et ça il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc là où Cyril a totalement raison, c'est que sur ce plan-là, la formation, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans ces secteurs spécialisés, mais aussi dans les entreprises, pour que tout le monde puisse se saisir de l'IA.
Et c'est vrai que le fait que Paris soit la capitale mondiale du luxe, c'est un levier énorme, d'ailleurs, justement, pour attirer les investissements, notamment dans la tech, parce que le luxe est toujours lié à l'innovation.
Exactement. Le luxe, et on peut imaginer aussi des innovations en termes de productivité, hein, c'est un peu tout le sens du grand investissement qui a été annoncé hier dans la le grand levée de fonds qui a été annoncé hier dans la CTH, alors, pour améliorer la productivité dans l'industrie d'une manière générale, et c'est ça aussi, comme le dit Emmanuel, c'est ce qu'on en fera, l'intelligence artificielle qui nous permettra ou pas finalement de conforter nos positions. Et j'allais dire, moi aussi, ce qui me marque aujourd'hui dans le débat, ce que j'ai trouvé intéressant, on n'a pas entendu depuis bien longtemps, et ça n'est pas un hasard, c'est le fait qu'on remette en avant notre énergie pas très chère, ou du moins qu'on a là maintenant peut-être la capacité d'accueillir beaucoup de super ordinateurs, de super calculateurs.
Avec des prix qui redeviennent compétitifs.
Voilà, et donc ça rejoint le débat que nous avons régulièrement ici sur le coût de l'énergie, etc. Et donc, je suis content de voir que la France remette ça un peu en avant pour réattirer des investisseurs, parce qu'après les débats qu'on a eus sur le nucléaire, ça fait un peu du bien. Et ça, c'est aussi un véritable atout.
Oui, et en même temps, aucun de vous deux n'a parlé de la surrégulation qu'il y a en France et notamment en Europe, et qui fait que justement, on n'arrive pas à prendre ce train et à être en avance de phase sur des sujets comme l'intelligence artificielle.
Bah si, même sur les données, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait avoir un avantage compétitif aujourd'hui en matière de données qui nourrissent l'intelligence artificielle, parce qu'on a des très belles bases de données. Le problème, c'est qu'elles sont verrouillées et qu'on n'a pas le droit d'y accéder.
Le programme de VivaTech, je vous disais, on va y consacrer de nombreuses journées sur BFM Business. Ça commence ce soir à hein, Tech & Co, la quotidienne avec François Sorel. Pareil demain soir, vendredi, Sport Business, 17h, avec la prise de parole de Sarah Williams. Vous savez qu'ils sont présentes porte de Versailles à Paris. Les pionniers chez Fred Mazzella, Pivoyer, rendez-vous qui vont se succéder tout le week-end jusqu'à lundi. C'est bien simple hein, sur BFM Business pour couvrir cette 8e édition de VivaTech à la porte de Versailles. On passe à un autre sujet, hein, bien différent d'un seul coup. Hein,
exactement. Dans un autre genre, ça y est, on parle de cette réforme de l'assurance chômage dont on connaît enfin les grandes lignes. Le ministère du Travail les a dévoilées après avoir commencé à recevoir les partenaires sociaux et ça se confirme. Eh bien, les conditions d'affiliation vont être durcies.
Bah oui, parce que jusqu'à présent, il fallait avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir des droits. Là, il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 mois précédents. Mesure qui permet d'économiser 3,6 milliards et créer 90 000 emplois. Écoutez ce que disait, alors c'était ce matin sur BFM Business, Marie-Lise Léon, avant d'être reçue par Catherine Vautrin, mais qui disait tout simplement que c'était une mesure vraiment purement budgétaire. Écoutez.
Moi, je pense que l'objectif réel, c'est faire encore plus d'économies. le sujet, il est d'abord budgétaire. On est sur un système assurantiel, c'est-à-dire qu'il y a des cotisations qui permettent d'alimenter ce système qui est un amortisseur social pour faire face à des crises et qui n'a rien à voir avec le budget de l'État. C'est ça qu'il faut que le gouvernement entende. Le régime d'assurance chômage n'est pas une variable budgétaire d'ajustement pour le budget de l'État.
Bon, le gouvernement voulait de toute façon clairement, il ne s'en est pas caché, étatiser le système. Enfin, il voulait plus que ça soit géré par les partenaires sociaux. Donc avec, en effet, un enjeu budgétaire. Et c'est chose faite, Cyril.
Oui, exactement. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Marie-Gilles Duron, c'est vrai qu'on l'oublie un peu trop souvent, mais l'assurance chômage, par définition, puisqu'il y a le terme assurance, c'est assurantiel. Et donc, c'est quelque chose qui devrait être totalement, toujours en permanence à l'équilibre, dans un sens comme dans l'autre. Je veux dire, quand il y a très peu de chômage, eh ben, il n'y a pas de raison que les règles soient assez souples, pour justement ne pas inciter trop les gens à aller au chômage alors qu'il y a plein d'emplois disponibles. Et puis quand, effectivement, le chômage est très élevé, eh ben, avoir un système plus souple, bah, quelque part, qui permettent d'absorber ces chocs-là. C'est un peu la logique quand même de ce que dit le gouvernement, hein. Alors au-delà de l'étatisation sur laquelle on va revenir, mais c'est vrai que quelque part, ce qui est intéressant dans la séquence qui est en train de se passer, c'est que dans un premier temps, Gabriel Attal était sur... on prend le problème des deux bouts maintenant. Dans un premier temps, il était sur le premier bout qui était en quelque sorte, on va réduire la durée d'allocation chômage. Et puis alors maintenant...
on ne touche pas la durée pour l'instant. Hein.
Oui, non, mais on aimerait réduire le temps durant lequel on a le droit de toucher les allocations chômage. Et puis là, maintenant, on s'aperçoit qu'on va durcir l'entrée au chômage. Donc, en fait, là, c'est l'autre partie. C'est intéressant. Donc, effectivement, on voit bien que c'est une réforme budgétaire et ce n'est pas un gros mot, de mon point de vue non plus, des deux côtés.
Ces chiffres valident effectivement le fait qu'on est sur une réforme purement budgétaire. Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez? 3,6 milliards et 90 000 emplois créés. 90 000.
Alors, l'argument de Marie-Lise Léon, on peut l'entendre, sauf que depuis qu'on a quand même supprimé les cotisations chômage pour...
Avec la CSG.
On ne peut plus vraiment dire que c'est une cotisation et que c'est un système assurantiel. Donc, ça a toujours été une discussion philosophique compliquée. Mais effectivement, ce qu'il faut quand même noter, c'est que quand c'était géré par les partenaires sociaux, le système d'assurance chômage était équilibré et n'était déficitaire qu'à cause de la contribution contestable qu'on demandait finalement à ce système pour financer Pôle emploi. Oui. Donc effectivement, il n'y avait pas de scandale. Après, on voit bien que le but du jeu, c'est quand même d'essayer de récupérer de l'argent le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'on choisit le durcissement des conditions d'accès, alors que la réduction de la durée d'indemnisation, par exemple, rapporte aussi de l'argent, mais de moins façon vite. Plus diffuse, moins vite, etc. Donc là, oui, effectivement, ça durcit. C'est quelque chose... Alors, 90 000 emplois...
Mais c'est psylonesque.
C'est quelque chose qu'effectivement, c'est une réforme qui n'est pas absurde sur un marché du travail qui reste quand même assez tendu. Et on a globalement aujourd'hui un marché du travail qui est quand même encore dynamique, actif. Quand vous regardez tous les chiffres qu'on a eus en fin de semaine dernière, alors certes, on a une petite remontée du chômage, mais tous les autres indicateurs sont plutôt bons. Le taux d'emploi qui atteint des niveaux historiques, c'est-à-dire jamais, en proportion, les Français n'ont autant travaillé. Vous avez toujours les entreprises, ça c'est l'enquête Rexecode, BPI, qui nous dit que le principal frein à l'activité des entreprises, ça reste
le manque de main-d'œuvre.
Donc, on peut penser que ces 90 000 emplois, ce sera quoi? Ce sera des gens qui, aujourd'hui, sont pas trop incités à essayer de rechercher un travail et de reprendre un travail, et que la réforme va faire basculer du côté de ceux qui cherchent un travail.
Oui, et que du coup, il ne faut pas oublier que tous les gens au RSA vont devoir s'inscrire à l'assurance chômage aussi. Voilà.
Et donc, oui, c'est possible. Après, 90 000 emplois, je rappelle que le marché du travail, c'est 21 millions d'emplois.
C'est pour ça, je trouve qu'afficher ce chiffre de 90 000, ça dessert la cause, ça dessert la réforme, quelque part, si elle...
Enfin, j'allais dire, c'est toujours 90 000 emplois mais c'est vrai que c'est pas du tout... Oui. Oui, mais quelque part, encore une fois, ça, c'est tout le paradoxe, effectivement, de ce que disait tout à l'heure Audrey, c'est-à-dire que c'est une réforme, clairement, qui vise à étatiste, au sens de reprendre totalement en main, et en même temps, qui veut jouer sur des paramètres exogènes, cette histoire de contracyclicité, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait envisager de réduire fortement, hein, d'ailleurs, les chiffres qui circulent sont assez forts, la, ouais, 40 à 50%, la durée d'indemnisation si le chômage baisse sous les 9%, 7%, etc. Il y a plusieurs paliers envisagés. C'est pas idiot, c'est-à-dire ça part du point de vue, encore une fois, qu'il faut tout faire pour que les gens ne restent pas au chômage le plus longtemps possible quand le marché est tendu, justement parce que le marché est tendu et qu'il y a des besoins extrêmement importants pour doper, pour stimuler la croissance.
Il y a un seuil à 6,5%
qui pourrait entraîner.
La dernière fois qu'on a eu 6,5% de chômage en France, c'était en 80.
Et là, on baisse l'indemnisation de 40%. Parce que 6,5%, c'est pas vraiment la direction du vent.
Enfin, on est passé de 10 à 7,5% en un temps assez record. Donc, pourquoi pas imaginer arriver à 6,5%.
Là où l'argument est un petit peu. Il y a une interview d'Emmanuel Macron parue dans l'Express aujourd'hui, justement, il revient là-dessus. L'argument qui est un petit peu limite, c'est de dire que là, ça y est, la conjoncture repartant, le taux de chômage va rebaisser fortement. Non. Honnêtement, c'est pas la tendance. Quoi. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est un peu théorique, ces débats-là sur le seuil de chômage.
Justement, puisqu'on est dans la théorie, revenons à la question philosophique que Emmanuel posait. Parce qu'il y a d'autres pays, en effet, où la protection contre la perte d'emploi est assurée par l'État. Mais à ce moment-là, si on va jusqu'au bout, c'est pas assuré par des cotisations et c'est assuré par de l'impôt. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'en effet, si les salariés ne cotisent plus, les employeurs, eux, continuent de cotiser.
Ouais, absolument.
Et donc, est-ce que le gouvernement...
continue à cotiser et les Français cotisent à travers la CSG.
Oui. Et donc, est-ce que c'est normal si on étatise?
L'idée... l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez encore davantage aux Français de financer...
Je vous pose la question.
...d'assurance chômage. C'est sûr que les employeurs ne diraient pas non, effectivement, oui. Et que ça... Alors, pour le coup, oui, ça créerait des emplois. Ça rejoint un autre débat qui est à qui on demande aujourd'hui des contributions pour finalement faire baisser le chômage.
Bien, alors dans la série, on cherche de l'argent. Vous savez que le gouvernement cherche des milliards d'économies pour l'an prochain, 20 milliards, je vous rappelle. Et qu'est-ce qu'on lit dans la presse? Que plusieurs députés dans la majorité poussent pour que l'an prochain, on fasse ce qu'on appelle un one-shot. On désindexe tout simplement l'an prochain les retraites et les prestations sociales de l'inflation. Un one-shot qui pourrait permettre d'économiser, jusqu'à 20 milliards d'euros, justement. Mais politiquement, c'est ultra risqué de faire ça, on est d'accord Cyril?
Alors méthode quand même déjà utilisée précédemment par l'actuel président de la République.
Avec le succès qu'on sait, voilà.
Oui, mais j'avoue que si on parle des pensions de retraite, c'est quelque part reprendre de l'argent aux retraités qui en ont quand même pas mal bénéficié ces dernières années.
Donc, voilà, c'est toujours l'idée.
Si on fait
que
sur une longue tendance, c'est un effort qu'on peut leur demander one shot, qui n'est pas totalement aberrant par rapport à tout ce dont ils ont bénéficié ces dernières années, et encore plus, j'allais dire, si on considère que la réforme des retraites a d'abord été assumée par ceux qui travaillent et pas par ceux qui ne travaillent plus.
Des indexations des retraites et des prestations sociales.
Exactement. Donc quelque part, je trouve que moi personnellement, ça ne me choque pas en termes de répartition des efforts demandés. Après, ce que j'aime pas, ce que vous avez dit, c'est ce côté one shot. Moi, je pense qu'on ne réforme pas, on ne trouve pas de l'argent sur un one shot. Il va y avoir des messages à adresser, pas que aux agences de notation, on en reparlera, mais parce que le lendemain des élections européennes, on va fortement déchanter en termes de relations avec la Commission européenne. La France va être vraiment dans le viseur. Donc, effectivement, ce message-là, il sera très important. Mais encore une fois, c'est la partie immergée de l'iceberg et ça n'empêche qu'il va falloir faire bien, bien d'autres efforts.
Alors,
mais
arrêter après, les one shots, c'est ça. Et puis arrêter les one shots. Emmanuel Macron aurait dit en Conseil des ministres à Thomas Cazenave justement qu'il fallait pas faire ça, que c'était pas pérenne. Même si on comprend, Emmanuel, que d'un point de vue budgétaire, c'est quand même assez facile, mais d'un point de vue politique, c'est un peu une bombe à retardement.
Mais c'est quand même fort de café, parce que une mesure qui rapporte autant, qui est finalement assez indolore, parce qu'elle repose quand même sur énormément de gens.
Elle va renier sur le pouvoir d'achat des plus fragilisés.
Mais alors moi, je partage totalement ce que dit Cyril sur les retraités qui ont quand même bénéficié d'un traitement de faveur.
Il n'y a pas que les retraités.
Je ne parle pas des retraites, je vous parle des prestations sociales.
Oui, mais vous rentrez dans une période où il y a quand même beaucoup moins d'inflation. Donc le sujet est quand même pas si prégnant que ça. Il y a moins d'inflation. Ça concerne quand même énormément de monde. Donc c'est quelque chose qui est assez diffus. Vous ne demandez pas à une petite partie de la population de supporter un effort. Donc c'est quand même relativement indolore et ça rapporte beaucoup. Ce serait stupide de s'en priver. C'est comme si on disait non, c'est trop facile d'aller chercher ces milliards-là. alors qu'on n'est même pas capable d'aller en trouver finalement par
ailleurs. Mais justement, c'est bien gentil, il va falloir nous expliquer à un moment donné comment on va aller chercher ces 20 milliards d'euros d'économie.
Pour le coup, pour une fois, on a une mesure qui est à la hauteur de ce qui est attendu en termes de rendement, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, on cherche des économies qui se comptent en dizaines de milliards et on arrive péniblement à chaque fois à quelques milliards.
Là, vous la validez, celle-là.
Bien sûr. Là, on a une mesure qui rapporte beaucoup et qui, encore une fois, ne mettra pas sans doute tout
le monde. Oui, d'accord, sauf que gouverner, c'est prévoir, me semble-t-il, 20 milliards. Donc, sur une année, et on fait quoi après?
Ça n'enlève strictement rien à ce qu'il faut faire après.
Oui.
Mais la réalité, c'est que c'est quand même 20 milliards en plus dans les caisses de l'État.
Et ça donne du temps.
Et alors, c'est peut-être ça qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la solution de facilité pour ne rien faire.
Mais oui, c'est la solution. Voilà. Donc, on est d'accord avec ça, Cyril,
c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Oui, bah voilà.
Le problème, c'est ça.
Gagnant dans les travers.
Mais j'allais dire, c'est une, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est une bonne réponse à une mauvaise question ou l'inverse. Oui. Vous voulez dire que c'est OK, c'est un bon coup à faire et qui n'est pas totalement, absurde au sens. C'est pas terrifiant de pouvoir reprendre une partie de ce qu'on a donné à une catégorie de la population, donc elle n'est pas inique, j'allais dire. Par contre, effectivement, c'est pas la solution au sens large.
Pour l'instant, cas, le Figaro notamment dit Emmanuel Macron n'en veut pas. Souviens-toi du vase de Soissons.
Emmanuel Macron, ce qui est en train de se passer dans les élections européennes, c'est exactement l'inverse de ce qui est arrivé en 2022, c'est qu'il est en train de perdre le vote des seniors, des retraités.
Oui, tous les cadeaux qu'il aura fait. Avant les européennes, il ne sera rien sur le sujet.
Voilà, ça c'est sûr, mais je veux dire, c'est d'un point de vue.
Des ingrats.
Voilà, exactement. D'un point de vue purement politique, au point où il en est, autant
retaxer. Quand est-ce qu'Emmanuel Macron va comprendre que vous n'achetez pas le vote des gens? C'est-à-dire qu'en gros, rendez-vous compte, il n'y a pas un président. Mais il n'y a pas un président qui a fait autant de chèques. Il n'y a pas un ministre de l'économie qui a fait autant de chèques que Bruno Le Maire. Et résultat, Bruno Le Maire, qui espérait déjà un peu capitaliser sur le fait qu'il avait quand même sauvé la France et beaucoup aidé pendant le Covid, il est en train de passer pour le ministre de l'économie qui a dilapidé l'argent public.
Mais non, mais parce que le timing est mauvais. Si les élections avaient eu lieu l'année dernière,
c'est pour ça que vous pouvez donner autant de chèques que vous voulez aux gens.
Rappelez-vous des gilets jaunes, qu'est-ce qui reste des 17 milliards distribués du temps des
exactement
jaunes,
rien, voilà. Les gens ne vous sont pas reconnaissants, vous n'en faites jamais assez. C'est pas la solution de faire
les
des
chèques. Sont invisibles. Voilà.
Donc en fait, vous me dites qu'il faudrait faire comme Javier Milei.
Mais c'est comme la tronçonneuse. C'est la fameuse histoire de la queue du chien. Oui. C'est-à-dire, vous avez le choix. Est-ce que c'est plus douloureux pour le chien de lui couper la queue en coupant 10 petits bouts, ou est-ce que c'est plus douloureux de lui couper la queue entière d'un coup?
Je vous laisse réfléchir.
On se quitte sur cette métaphore animale.
Je vous laisse discuter.
Célèbre chez les économistes.
On est en retard. Bon, merci beaucoup, Manuel. À très vite. Cyril va revenir avec nous pour sa pénitence à 19h15 jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. Nous reviendrons dans un instant, bien sûr.
Oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est 19h02, on est un petit peu de retard à cause d'Emmanuel Le Chypre qui nous a gratifié de quelques métaphores animalières, c'est comme ça. On est ensemble en tout cas jusqu'à 20h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Tech & Co 2024, c'est donc parti, vous savez que BFM Business va être sur le pont pendant plusieurs jours. Tech & Co dans un instant, bien sûr, à 20h avec François Sorel. Nous aussi, on va y aller dans un instant, puis on va en parler avec nos experts, bien sûr.
Beaucoup de sujets à voir avec eux. En France, ça y est, on commence à savoir à quoi va ressembler la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et donc, ça se confirme, les conditions d'indemnisation vont se durcir. Et puis, on parlera aussi de cette nouvelle piste du gouvernement pour faire des économies l'an prochain, l'année blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait renoncer à l'indexation des retraites et des prestations sociales sur l'inflation. Et ça pourrait rapporter combien, Guillaume? Eh bien, 20 milliards d'euros.
Ça tombe bien. C'est ce qu'on cherche pour l'an prochain, absolument. Qui sera avec nous pour en parler? Le communicant Cyril Lachèvre va bien sûr revenir. L'entrepreneur Leonidas Kalogiropoulos et Jonas Sadat de la Fondation Concorde. Ça nous promet un beau débat, tout ça, évidemment.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc Vivatech édition 2024, ça y est, c'est parti du côté de la porte de Versailles à Paris. Bonsoir Nathan Cocampo, vous êtes sur place. Il y a déjà eu quelques prises de parole et quelques démos fort intéressantes, Nathan.
Bonsoir Guillaume. Oui, on a surtout entendu deux lettres ici à Vivatech. IA pour intelligence artificielle, vous le savez bien. Exemple, chez Airbus, j'ai pu monter dans un camion ultra connecté avec à l'intérieur un vrai cockpit d'A350, un simulateur d'avion finalement, mais pas n'importe quel avion, un avion autonome. Alors rassurez-vous, il y aura toujours un pilote à l'intérieur, mais l'idée derrière ce test, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, le maximum de données possibles pour détecter les obstacles sur la route, pour imaginer finalement l'avion de demain, un avion où les algorithmes aident le pilote à prendre les bonnes décisions, le meilleur itinéraire possible, la meilleure arrivée possible à l'aéroport pour fluidifier au mieux le trafic. Je vous parle d'Airbus, mais toutes les stars de l'IA sont bien présentes au salon cette année. Je pense à l'informaticien français Yann Lequin. Je pense aussi au responsable d'OpenAI et l'intervention que tout le monde attend ici. Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, va échanger avec le public en visio conférence demain et il sera évidemment question là aussi d'intelligence artificielle à suivre sur notre antenne. Plus largement, l'objectif cette année, c'est de dépasser le record de l'année dernière, le record absolu de 150 000 visiteurs. Alors avec plus de 2500 startups présentes ici, 2800 exposants dont des géants comme Microsoft, Google, Amazon, cette édition 2024 s'annonce vraiment comme une très très belle édition. La foule a en tout cas, comme vous le voyez, bien répondu présent aujourd'hui.
Merci beaucoup Nathan Cocampo, donc en direct de la porte de Versailles pour BFM Business. Je vous disais, il y a beaucoup de beau monde cette année à Vivatech. L'ancien patron de Google, Eric Schmidt, Arthur Mensch, le fondateur de Mistral, la patronne d'Orange, Christelle Henneman, puis il y a Bernard Arnault, le patron d'LVMH. Bernard Arnault, qui est en marge de cet événement, vient de renouveler son partenariat avec le géant chinois Alibaba. Accord qui va lui permettre de pénétrer encore plus le marché chinois. Pauline Tatevin.
Ce matin, côté français et côté chinois, on se satisfait de renouveler pour 5 ans ce partenariat dont on ne divulgue pas les termes financiers. Mais les enjeux sont considérables. La Chine est un marché très important. On a besoin d'y travailler avec les meilleurs, rappelle le responsable tech de LVMH. Son homologue chez Alibaba se félicite de cette opportunité. Depuis le début de leur collaboration en 2019, il a été question de data et de cloud, d'intelligence artificielle. Ces derniers mois, l'IA générative est au cœur, en particulier pour les activités de LVMH en Chine. Il y opère 1400 boutiques et y compte 28 000 salariés. Grâce à ce partenariat, il fournit à ses vendeurs des applications pour personnaliser de plus en plus leur offre à leur clientèle. L'IA aide aussi ses salariés en Chine au quotidien pour effectuer des présentations ou des résumés de documents. Ce que LVMH propose à ses équipes ailleurs via l'intelligence artificielle qu'il a créée à partir de ChatGPT, mais pas question bien sûr d'importer en Chine une IA américaine. Le choix d'Alibaba sur place s'est donc imposé à LVMH.
Voilà pour LVMH et voilà pour ce Vivatech donc, dont on parle bien sûr dans un instant avec nos experts. Puis à partir de 20h, bien sûr, Tech & Co qui sera sur place avec François Sorel et ses équipes, bien sûr. 19h06, la Chine justement. Il semblerait qu'elle soit sur le point de préparer un mauvais coup à l'industrie automobile européenne. Vous savez que dans deux semaines, Bruxelles pourrait dégainer des droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Et bien apparemment, ça y est, Pékin est en train de préparer la riposte, comme on dit. Laura Cambeau.
Dernière menace en date diffusée via un quotidien pro-Pékin, le Global Times. Dans un article, un dirigeant du Centre chinois de recherche automobile lance un appel. Il faut monter les droits de douane pour les voitures importées. Sur les grosses cylindrées, les taxes à l'import pourraient passer de 15 à 25%. Une hausse pour réduire les émissions de carbone selon la version officielle. En réalité, c'est une allusion directe aux berlines allemandes. Médias, lobbies, réseaux sociaux, Pékin utilise tous les moyens de pression et vise des secteurs symbolique, souvent sensible politiquement, comme l'aéronautique ou le vin. En janvier déjà, la Chine avait annoncé une enquête sur les subventions aux eaux de vie avec dans le viseur le cognac. Des tensions commerciales qui s'exacerbent à l'approche du 5 juin, date de la décision européenne et l'adoption probable de taxes douanières relevées pour les véhicules électriques chinois. La semaine dernière, c'est Joe Biden qui a annoncé multiplier par 4 les droits de douane pour les marques chinoises, BYD, MG Motor ou encore Leapmotor.
Laura Cambeau, et puisqu'on parle auto, Renault a confirmé aujourd'hui qu'il ne discutait plus avec Volkswagen d'une éventuelle collaboration pour bâtir ensemble, vous savez, la future Twingo électrique. C'est le directeur général
de Renault, Luca De Meo, qui l'a confirmé en marge de Vivatech, précisément. 19h08, on vient en France avec donc cette fameuse réforme de l'assurance chômage dont on connaît désormais quelques grandes lignes parce que ça y est, la ministre du Travail a commencé à en parler aux partenaires sociaux. Caroline Morisseau.
Le gouvernement va bel et bien durcir les conditions d'ouverture des droits. Il faudra désormais avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers, non plus 6 sur les 24 derniers pour être indemnisé. Autre mesure, durcir encore un peu plus la modulation des règles en fonction de la conjoncture. La durée d'indemnisation a déjà été réduite de 25% en février dernier, dans la mesure où le chômage était sous les 9%. Une baisse plus importante de 40% cette fois pourrait intervenir si le chômage tombe sous les 6,5%. En ce qui concerne les seniors, les bornes d'âge qui permettent de bénéficier d'une durée d'indemnisation plus longue vont être décalées de 2 ans. Concrètement, il faudra donc avoir 57 ans et non plus 55 pour bénéficier de 27 mois d'indemnisation. Enfin, les employeurs ne seront pas épargnés. Le bonus-malus, qui consiste à alourdir les cotisations des entreprises qui abusent des contrats courts, va être élargi à davantage de secteurs. La ministre du Travail assure que tout cela peut encore bouger. L'objectif, en revanche, est clair. Le gouvernement compte sur ces mesures pour créer 90 000 emplois et vise 3,5 milliards d'euros d'économies, voire un peu plus de 6,5 milliards si le chômage tombait sous les 6,5%.
Voilà pour cette réforme de l'assurance chômage. Ça aussi, bien sûr, on en parlera avec nos experts tout à l'heure à 19h30. Et puis alors, figurez-vous que se tenait tout à l'heure l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société Générale. Et évidemment est venue sur le tapis la question de savoir ce que son directeur général penserait, comme l'avait évoqué la semaine dernière Emmanuel Macron, vous savez, d'un éventuel rapprochement entre la SOCGEN et un autre acteur européen, en l'occurrence l'Espagnol Santander. Slavomir Krupa, le DG de la SOCGEN, a été catégorique. Lui pense que ça ne peut pas se faire.
Le premier commentaire, c'est que elles sont aujourd'hui en Europe extraordinairement improbables. Il y a des surcharges en capital importantes qui sont liées à la taille des établissements bancaires. Pour des raisons industrielles, extraire des synergies dans le cadre d'une opération bancaire est historiquement, bien avant l'union bancaire, et c'est le cas encore aujourd'hui, extraordinairement difficile. Donc, voilà, commentaire sur la probabilité d'une opération transfrontalière en Europe, de quelque nature que ce soit, c'est que elle est structurellement très improbable.
Voilà, ça a le mérite d'être clair. Slavomir Krupa, le directeur général de la Société Générale, qui s'exprimait cet après-midi devant les actionnaires. Et puis encore un mot d'entreprise, c'était attendu, c'est confirmé. La holding et plusieurs entités du groupe Indexia ont été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Le PDG d'Indexia, qui avait bâti un empire, hein, d'abord dans l'assurance téléphonique, puis dans les services liés aux produits médias, ce PDG sera lui jugé à l'automne en parallèle, en correctionnel cette fois. Il sera jugé pour pratique commerciale trompeuse. 19h11 sur BFM Business. On retourne sur les marchés. Je vous redonne la clôture à la Bourse de Paris. Ce soir, le CAC 40 qui perd 0,61%. 8092 points ce soir à la clôture. Bonsoir, Aude Karsulek.
Bonsoir.
Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps, Aude?
Ouais, on ne fait pas grand-chose. Hein. On manque de souffle sur les trois indices qui sont quasiment stables. Le Nasdaq est légèrement dans le vert en attendant l'événement de la saison des résultats. Il vient plutôt tard, hein, mais c'est la publication de Nvidia. En attendant, le titre baisse de 0,5%. Pour la troisième plus grosse capitalisation du monde. On verra si ces résultats trimestriels dépassent les attentes des analystes et si l'action peut aller au-dessus des 1 000 $. Elle est en ce moment à 949 $. On a Nvidia aujourd'hui, mais on a aussi les minutes de la Fed, un autre sujet favori des investisseurs avec l'IA. On va savoir ce qu'il s'est dit pendant la dernière réunion, même si sans surprise, on saura qu'on est très dépendant des données économiques. Et puis, inquiétude, tiens, sur la consommation américaine. C'est Target, le distributeur, qui a manqué les attentes. La direction fait état de pression sur le consommateur. Le titre est sanctionné. Il baisse de 6,6%. Mais donc, Wall Street stable en attendant 22h20.
Ça sera effectivement le grand rendez-vous ce soir, cette trimestrielle d'NVIDIA. Merci beaucoup, Aude Karsulek, avec nous sur BFM Business. Il est 19h12. On revient dans un instant avec Audrey Tcherkov, avec nos experts. Beaucoup de choses à voir ensemble jusqu'à 20h. Bien sûr, Vivatech, qui a commencé cet après-midi à la porte de Versailles. Cette réforme de l'assurance chômage dont on connaît désormais quelques grandes lignes. Cette info de presse qui nous dit que le gouvernement envisage un one-shot. On désindexe les retraites et les allocations familiales de l'inflation pour récupérer jusqu'à 20 milliards d'euros. Ça tombe bien, on cherche 20 milliards pour l'an prochain. Tout ça plus bien d'autres choses jusqu'à 20h. A tout de suite.
BFM Business présente
Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, on est reparti jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir
Audrey
à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous et nos experts. Ils sont là, Cyril Lachef, fondateur de l'agence de communication Silence, est revenu. Rebonsoir Cyril. Bonsoir. Jonas Haddad, bonsoir Jonas.
Bonsoir.
Vice-président porte-parole de la Fondation Concorde, qui a le mérite de finir à pied, visiblement, Paris.
Absolument. Est le plus durable possible.
Ça fait 2-3 fois là qu'on a des retardataires à 20h, à 19h15.
Et je pense que ça ne fait que commencer.
Et là, ça ne fait que commencer. Leonidas Kalogiropoulos est avec nous. Leonidas,
bonsoir.
Bonsoir, PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Alors c'est parti avec Fast et en train pour Vivatech 2024, 8e édition. Rappelle les chiffres de l'an dernier, hein, 150 000 visiteurs, près de 11 000 startups, près de 2500 investisseurs. Et cette année, on le sait, c'est l'IA. Évidemment, qui va être le gros sujet de discussion sur
France. Et oui, alors Emmanuel Macron disait, rappelez-vous, en début de semaine, vouloir faire de la France une puissance de l'intelligence artificielle. Écoutez ce que disait ce matin Marina Ferrari, la secrétaire d'État chargée du numérique, puisque pour elle, eh bien, la France avance plutôt vite sur le sujet. On écoute et on en débat.
Qu'on a fait à l'époque sur la Startup Nation qui est en train de devenir la Deep Tech Nation est payant. C'est très important les investissements étrangers structurants, non seulement pour l'emploi, mais aussi pour nos capacités aujourd'hui, pour notre hardware, un peu j'ai envie de dire. Vous savez que l'enjeu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est aussi nos capacités de calcul. Un des gros investissements qui a été annoncé, c'est celui de Microsoft sur un nouveau data center en France qui devrait contenir 25 000 GPU. Et vous l'avez vu, pour tous ceux qui sont férus aujourd'hui d'intelligence artificielle, la commission sur l'intelligence artificielle, dans son rapport, nous préconisait d'implanter 30 000 GPU supplémentaires par an en France. Donc, en un investissement, on atteint quasiment l'objectif. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, voilà, il faut raisonner au niveau européen, il faut raisonner au niveau mondial, et que la France est un pays de plus en plus attractif. Et ça, c'est grâce à la politique que nous conduisons, et c'est heureux.
Voilà, Marina Ferrari avec François Sorel. Interview pour écouter tout à l'heure en intégralité Tech & Co, spécial Vivatech, à partir de 20h sur BFM Business.
Oui, alors donc, Marina Ferrari cite l'exemple de Microsoft, et elle a bien raison, parce que elle aurait pu citer celui de Amazon, qui est un peu moins gratifiant, puisque Amazon Choose France annonce 1,5 milliard d'investissement en France, 2 jours après 7 en Allemagne, et là en Espagne, Cyril, ils viennent d'annoncer 16.
15,7, oui.
Ouais, bon, voilà. Donc, on se rend bien compte des ordres de grandeur qui sont différents. Je ne vous parle même pas de ce qui est investi en Grande-Bretagne chaque année, qui est bien plus du double de ce qui est investi en France. Mais le problème, c'est quoi ? Est-ce que, parce qu'on n'arrête pas de faire des déclarations sur le sujet, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place un environnement qui est plus attractif ? Est-ce qu'on surrégule trop, Leonidas ?
Écoutez, avant de poser la question de la surrégulation, je voudrais juste m'interroger sur ce qu'est la souveraineté numérique, qui est un terme que l'on utilise beaucoup et que le gouvernement utilise énormément. Moi, je dirige une association qui s'appelle l'Open Internet Project, qui se bat contre des abus de position dominante. Et je vous avoue que nos membres sont par moments un peu interloqués à constater qu'une entreprise comme Microsoft, ça a été annoncé dans la presse, va être l'objet d'une ouverture d'enquête par la Commission européenne pour abus de position dominante. Et je ne sais pas comment on fait pour combiner en même temps la problématique de la souveraineté numérique, le constat d'abus de position dominante et le fait de dérouler un tapis rouge en saluant l'arrivée des investissements, de la prise de position.
Ça s'appelle le pragmatisme, ça, Léonie.
Alors, ça s'appelle le pragmatisme et je l'entends. Non, mais c'est une question. Je ne veux pas commencer à aboyer de manière idiote et caricaturale. Je dis simplement que il ne faut pas, je pense, être non plus naïf. Lorsque l'on entend qu'il va y avoir des investissements, que l'on va avoir des supercalculateurs, qu'il y aura des data centers et que ça nous permettra de faire face à nos besoins de calcul, ça nous met également en situation d'extrême dépendance. Et ça met nos talents, nos diplômés en situation d'être chassés par des gens qui ont des poches sans fond.
Oui, mais la solution à ça, à ce moment-là, c'est de créer en face des champions de la même envergure. Et donc pour ça, il faut évidemment des investissements et des ambitions au niveau européen.
J'entends bien, et le fait est aussi qu'il faut avoir la capacité pour nos jeunes pépites de croître sans trébucher sur des pratiques qui sont des pratiques déloyales. Donc l'ensemble de ces paramètres sont difficiles à concilier, et je trouve qu'au moment où on a un Vivatech qui arrive 48 heures à peu près après Choose France, c'est pas totalement évident de concilier.
Il faut trouver les bons financements en Europe, ce qui reste, on en parlait tout à l'heure, effectivement aussi le gros sujet. Jonas Sadat, comment est-ce que vous regardez ce Vivatech là?
Oui, et puis vous êtes le seul avocat du plateau, donc sur les pratiques déloyales.
C'est pas faux. Dans les premières années, quand on fait une école de commerce, on nous apprend la stratégie de l'océan bleu, c'est-à-dire en gros d'essayer de pas aller sur le même océan que les océans habituels et de voir où est-ce que vous pouvez vous positionner différemment. C'est certain que si aujourd'hui, et ça fait combien, 10 ans, 20 ans, qu'on dit on va créer le Google européen, il faut tout de suite redescendre. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des tentatives françaises, ça n'a pas marché, etc. L'idée, c'est de faire un pas de côté et se dire où est-ce qu'on peut être meilleur. Quand on voit une start-up comme Mistral, qui n'est plus une start-up, on voit bien qu'ils ont fait un pas de côté et qu'ils se placent dans ce cas-là, non plus en situation de débattre, de savoir si on est dépendant ou pas, puisqu'en fait, ils créent leur océan bleu à eux. Deuxièmement, en fait, pour réussir dans un pays, il y a besoin de trois choses, à mon sens. Il y a besoin, un, d'un écosystème. Avec Vivatech et ce qu'a annoncé le président de la République ce matin, on peut dire qu'on a l'écosystème. Deuxièmement, il y a besoin d'une régulation. Je pense que la régulation au niveau européen, maintenant on l'a, on a compris, vous inquiétez pas, tout le monde sait qu'en Europe, c'est régulé. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, le troisième facteur clé de réussite, c'est l'argent. Et c'est là où ça pêche. Encore une fois, comme toujours, comme souvent, je le dis, on a un trou dans la chaîne de financement. Oui. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'année dernière, moins 50% de levée de fonds, de façon globale. Et donc, en fait... c'est pas franco-français. On est à moins 50% en France. On est à moins 60% en Allemagne. Donc, ça va plutôt bien de ce côté-là. Mais encore une fois, si on veut voir émerger des champions... Il faut qu'on ait de l'argent. Et pour cela, il faut, et je peux le redire encore 15 fois, mais il faut qu'on massifie l'apport d'argent dans les entreprises innovantes. Il faut qu'on élargisse l'IRPME. En fait, si vous voulez, il faut qu'on passe d'une nation de personnes qui mettent dans la pierre ou dans l'épargne à une nation de personnes qui se disent « Ok, je vais mettre un peu d'argent dans des entreprises innovantes. » Parce que si on ne prend pas cette taille-là, eh ben, ça continuera d'être des fonds de pension américains qui financent Microsoft. En fait, on a besoin d'élargir la taille de ceux qui investissent dans nos startups.
Alors, on rappelle ce chiffre. En 2023, c'est 8 milliards d'euros investis dans les entreprises tech en France. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, Cédric ? Cyril, alors, pardon. Alors, moi, sachant que la Grande-Bretagne, c'est plus du double.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jonas sur les trois choses qu'il faut pour favoriser cette croissance. Moi, je rajouterai une quatrième. Je reviendrai après sur l'argent. La quatrième, c'est évidemment l'éducation au sens très large. Et là aussi, on voit que ça commence à pêcher en matière scientifique et d'une manière générale dans la recherche. L'argent, ce qui est terrible, c'est qu'on en a. Mais effectivement, on en a énormément, même en France, en réalité, d'argent. Le vrai argent, on va dire, parce que celui du gouvernement, c'est le nôtre aussi. Mais malheureusement, effectivement, on ne sait pas le flécher vers les beaux projets, et pour tout un tas de raisons. Donc ça, c'est un vaste
débat.
Mais
alors, l'épargne, c'est-à-dire, on a un livret A, il faudrait un livret IA.
C'est
joli.
Ah, c'est beau. Pas mal. Mais bien évidemment, ce sont des fonds de pension, on les appelle comme on veut. D'ailleurs, les Français sont favorables à ça, majoritairement, quand on les interroge comment financer la retraite par des fonds de pension. Ils sont majoritaires. C'est la première des réformes, c'est la première des mesures qu'ils proposent. Donc, il n'y a que le gouvernement pour ne pas la vouloir. Au passage, effectivement, donc si on a réuni tous ces éléments-là, on peut rivaliser. Mais... encore une fois, après, on n'a pas besoin de se battre sur tous les sujets face à des géants. Comme les États-Unis,
notre spécialisation.
Mais effectivement,
qui a trouvé ce.
Je veux juste peut-être redire. Pardonnez-moi. En fait, on vit un moment qui est particulier. C'est une crise de l'immobilier. Oui. D'accord. Donc, il y a de moins en moins de gens qui investissent.
On en parlait d'ailleurs.
Il y a de moins en moins de gens qui investissent dans l'immobilier. À côté de ça, on vit un deuxième moment, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'investisseurs qui arrive. Vous allez voir pendant Vivatech, il y a plein d'entreprises maintenant qui, à l'américaine, vous proposent d'investir un petit morceau, un peu dans quelques startups, de mettre des actions fractionnées ou des choses comme ça. Donc, et ils sont aussi à l'aise avec tout ce qui est les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'une génération d'investisseurs qui est plus fluide dans son investissement, il faut profiter de ça, quitte à faire des incitations fiscales. Alors, on peut l'appeler livret IA, on peut l'appeler autrement, mais à dire, voilà, les nouveaux investisseurs, n'investissez pas comme papa, maman, c'est pas plus mal, essayez de vous embarquer dans quelque chose de plus innovant.
Quel travail de pédagogie,
les milléniaux ont envie de ça, je vous assure.
Ouais, il faut espérer. Écoutez, vous parlez de Mistral, écoutez Arthur Mensch, fondateur de Mistral, justement, qui était auditionné ce matin à l'Assemblée nationale et qui disait, on n'a pas encore pris
conscience de l'ampleur des révolutions que va engendrer la montée en charge de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que sur le marché du travail, par exemple? Écoutez ce qu'il disait ce matin à l'Assemblée.
Pour beaucoup de métiers, y compris des métiers de, du service, y compris des métiers du service relativement bien payés aujourd'hui, c'est des métiers qui vont, alors je ne vais pas dire disparaître, mais très largement modifiés dans les 10 prochaines années. Donc ça, je pense qu'il faut largement l'anticiper dans une économie qui est dominée par le service en France. Ça veut dire que la structure du travail et du marché du travail va profondément changer dans les 10 prochaines années, et je ne suis pas sûr que le législateur en ait parfaitement conscience et parfaitement conscience de des changements que ça va.
Alors ça c'est clair, on a un marché du travail qui est en plein bouleversement. Quand on voit que le nombre d'offres d'emploi dans l'IA augmente 3 fois plus rapidement que dans tous les autres secteurs, et on a un vrai enjeu de formation puisque justement ce sont aussi des salaires qui sont à peu près 25% plus élevés.
Non mais c'est là où je pense qu'on a, on a collectivement envie que ce soit nos boîtes, nos talents, nos investissements, nos objectifs, notre morale aussi qui l'emporte dans la conception de ces outils qui vont effectivement révolutionner l'ensemble de nos modes de fonctionnement, mais qui ont aussi besoin d'être alimentés avec un certain nombre de principes éthiques. Cette IA-là, elle a besoin d'être nourrie par la collecte d'informations. Ces informations-là, il faut savoir si elles sont utilisées aux dépens de ceux à qui elles sont prises. Est-ce que c'est de la création intellectuelle qui est siphonnée, ou est-ce qu'elle est rétribuée? Enfin, ce sont des éléments qui nous concernent un peu collectivement dans notre mode d'organisation. On a plutôt envie que ce soit nos outils plutôt que d'avoir des outils qui viennent révolutionner nos modes d'organisation sociale et qui nous viennent d'ailleurs.
Oui, mais pardon, mais parce que les principes éthiques, évidemment, je vous rejoins là-dessus, on en est tous d'accord, mais si on les applique uniquement aux entreprises françaises ou aux entreprises européennes et qu'on déroule le tapis rouge aux Américains notamment,
qui on revient à notre problématique de tout à l'heure.
Voilà, exactement. Et bien forcément, c'est un problème de compétitivité. Cyril.
Exactement, avec encore une fois le fait que l'IA peut améliorer la compétitivité, enfin du moins la productivité. Moi j'y vois que des avantages à titre personnel, parce que je pense que on a tort de vouloir opposer IA et emploi, pour faire très très court.
Alors on est d'accord.
Mais après effectivement c'est un défi, et il faut quand même réglementer non pas tant en fait l'usage qui est fait des données, mais de la collecte des données, paradoxalement, parce que c'est le nerf de la guerre, et c'est, enfin je veux dire, ça existe de bien avant l'IA. Enfin je veux dire ce qu'on appelait le big data, ce qui a l'air complètement dépassé, mais qui est en fait la base de tout. Je veux dire, ça fait des années que des gens vous expliquent qu'ils peuvent prévoir le taux de divorce dans 3 ans en fonction de l'utilisation de cartes bleues aujourd'hui, parce qu'ils voient ce que les gens font avec leurs cartes bleues, voilà, en dehors des circuits classiques, on va dire.
Donc voilà, c'est pas si on racontera ça à Vivatech, parce que c'est pas...
Bon, donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est ça. Après, la question, c'est de savoir s'ils dévoilent les informations qu'ils ont récupérées sur les cartes bleues.
Je vous rappelle quand même que Sam Altman lui-même, donc le fondateur d'OpenAI à Davos, et c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, disait: attention, la machine va beaucoup plus vite que l'homme, et elle est en train de nous dépasser. Ça fait peur quand même, Jonas.
Oui, en fait, l'IA, c'est un cheval. Donc, soit on lui demande de s'arrêter, soit on le chevauche. Non, mais clairement, c'est un peu le même sujet qu'à l'époque des robots, vous savez, avec le Japon, où tout le monde disait, vous allez voir, le Japon va totalement se déstructurer par rapport à sa robotisation, ou même l'Allemagne. Et en réalité, on a bien vu que les conséquences sur l'emploi, elles sont bénéfiques, mais si on prend les morts, si vous voulez, de ce cheval-là, si on l'exploite pour gagner de la compétitivité et derrière le plugger dans de l'industrie, ça a du sens. Notre difficulté, nous, c'est qu'on a à la fois... Alors, on peut se rattraper sur l'IA, hein, mais on n'a pas chevauché le cheval numérique, et on a en même temps désindustrialisé. Donc, en fait, on a cassé notre chaîne de valeur, alors que là, on réindustrialise et on met de l'IA, donc normalement, ça devrait fonctionner.
On a essayé d'arrêter le cheval, ça n'a pas marché. Hein.
C'est pas faux.
Pour l'instant, ça n'a pas marché. Allez, Vivatech 2024, qu'on va suivre sur BFM Business. Regardez le programme si vous nous suivez la télévision. Tech & Co, bien sûr, ce soir, en direct sur BFM Business, depuis la porte de Versailles. Pareil demain, vendredi 17h, Sport Business, puisqu'on diffusera l'intervention des Sœurs Williams. Vous savez qu'ils sont invités de marque cette semaine du côté de la porte de Versailles. Et puis vous voyez les pionniers chez Fred Mazzella vendredi 20h, et puis tout le week-end des rendez-vous spéciaux pour vous accompagner, pour vous faire suivre bien sûr ce Vivatech édition 2024. Il est 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h30, 19h35 sur BFM Business. Nous sommes avec Cyril Lachèvre, Jonas Haddad et Léonidas Kalogeropoulos. Et bien sûr, Guillaume Paul. On le rappelle quand même. Avec nos experts, on parle maintenant de cette réforme de l'assurance chômage dont on connaît, ça y est, enfin les grandes lignes. Donc le ministère du Travail les a dévoilées après avoir commencé à recevoir les partenaires sociaux. Et donc c'est confirmé, les conditions d'affiliation vont être durcies.
Bah oui, parce que jusqu'à présent, il fallait avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir les droits. Là, il faudra avoir travaillé 8 mois seulement sur les 20 mois précédents. Mesure qui permettrait d'économiser 3,6 milliards et créerait 90 000 emplois d'après le gouvernement. Écoutez ce que nous disait alors ce matin Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT, avant d'aller chez Catherine Vautrin. Elle disait déjà que c'était une réforme purement budgétaire et rien de plus. Écoutez.
Moi, je pense que l'objectif réel, c'est faire encore plus d'économies. Le sujet, il est d'abord budgétaire. On est sur un système assurantiel, c'est-à-dire qu'il y a des cotisations qui permettent d'alimenter ce système qui est un amortisseur social pour faire face à des crises et qui n'a rien à voir avec le budget de l'État. C'est ça qu'il faut que le gouvernement entende. Le régime d'assurance chômage n'est pas une variable budgétaire d'ajustement pour le budget de l'État.
Jonas Haddad, je vous sens dubitatif, mais enfin, on peut pas dire que en faisant ça, le gouvernement ne cherche pas à faire un des économies, deux à étatiser le système, et puis trois aussi évidemment à tendre vers son objectif de plein emploi.
Non, je suis pas toujours l'avocat du gouvernement, mais pour le coup, on peut pas leur en vouloir. D'abord, argument d'autorité peut-être, mais en faisant ça, on se place dans la moyenne européenne. Bon, ils sont pas tous bêtes. Deuxièmement, les gains qui sont affichés. Vous avez donné des sommes, 90 000 emplois, c'est peut-être pas ça qui structurellement motive le gouvernement. Ce qui motive le gouvernement, et de ce que j'ai cru comprendre dans les discussions avec eux, c'est qu'en réalité, on a aujourd'hui le résiduel pour atteindre le plein emploi, qui serait quelque chose de bon pour le pays, qui est en fait sur des personnes qui ont complètement assimilé la façon dont fonctionne l'indemnisation et qui jouent un petit peu avec ses marges. Et enfin, j'en terminerai pour réagir par rapport à ce qu'a dit la dame de la CFDT. Elle oublie qu'entre-temps, il y a eu une réforme qui est passée par rapport aux crises. Et vous savez qu'il y a la fameuse météo de l'emploi qui a été mise en place, dans laquelle on peut moduler. Donc, dans ce qu'elle dit...
Le contrat cyclique.
Elle oublie cette réforme-là qui, justement, est faite pour pouvoir venir faire varier. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, on peut rester dans ces eaux-là. Donc, c'est-à-dire maintenant qu'il faudrait travailler 8 mois sur les 20 derniers mois.
Oui, oui.
Objectivement, on ne peut pas trouver ça fou que la moitié...
C'est un tour de vis significatif par rapport aux règles actuelles.
Oui, mais vous imaginez, nos téléspectateurs, est-ce que, pour ceux qui connaissent, parce qu'ils ne connaissent pas tous... Avant, il fallait travailler que 6 mois sur les 24 mois. Ça, vous imaginez 6 mois sur 2 ans. Enfin, là, c'est peut-être un tour de vis. Mais avant, la vis, elle était totalement ouverte. Enfin, le truc était branlant, quoi.
Alors, c'est vrai que c'est un dispositif beaucoup plus généreux que l'ensemble de nos voisins et pas forcément très incitatif au retour à l'emploi.
L'Allemagne, c'est 12 mois sur 24.
Non, mais il est fait pour des temps de crise. Le système tel qu'il était avant. Il était objectivement conçu pour être très généreux lorsqu'il n'y a plus d'emploi.
Voilà, mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre,
on peut considérer que l'on fait un maximum d'efforts pour accompagner nos concitoyens qui sont confrontés, j'allais dire, à ce terme qu'on a utilisé, à la fatalité du chômage.
Oui.
Il n'y a plus une fatalité du chômage. Il y a des emplois. Il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, on le sait.
Oui, 300 000, Léonidas.
Alors, il y a un sujet de formation, quand même.
Est-ce que vous dites qu'il n'y a plus de fatalité au chômage? Non, on ne peut pas être d'accord avec vous.
Guillaume, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne trouvent pas un emploi seraient fautifs. C'est pas le raisonnement. Ouais. Le raisonnement consiste à dire que il y a beaucoup plus de chances d'arriver à trouver un emploi quand on en cherche parce que l'activité économique produit des emplois et le recul du chômage en atteste. Donc on adapte notre dispositif d'accompagnement du chômage à la situation économique. C'est une évolution qui est normale. D'ailleurs, si les conditions de chômage redevenaient j'allais dire dramatiques, on reviendrait probablement au système antérieur. Donc c'est assez logique. Et puis il y a un autre point, vous soulignez que les salariés ou les citoyens ont intégré le mode d'accompagnement, on le voit notamment avec le travail temporaire. Le travail temporaire, c'est souvent un travail temporaire choisi. Et quand on regarde pourquoi les gens s'arrêtent de travailler à 2/3 de temps, on se rend compte que s'ils mordent sur la ligne des 2/3 de temps, ils perdent toutes les allocations auxquelles ils ont droit. Donc c'est vrai qu'on intègre tous ces mécanismes et qu'au bout d'un moment, on s'y fait et on s'adapte.
Donc vous dites réforme correctement calibrée, on est d'accord.
Je pense qu'elle est convenablement calibrée.
Cyril, est-ce que vous êtes d'accord?
Ce qui est très clair dans la stratégie du gouvernement, c'est que là maintenant c'est une pince à deux niveaux. Hein. D'un côté, c'était les premières annonces du Premier ministre Gabriel Attal, c'est on va réduire la durée d'indemnisation et donc à la sortie en quelque sorte, pour les inciter à sortir plus vite. Et là maintenant on va boucher un peu l'entrée en permettant d'entrer que ceux qui ont un peu plus de conditions, remplies de conditions de travail. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement on sent que c'est même... C'est une réforme budgétaire peut-être, mais je sais même pas. D'un point de vue philosophique,
c'est epsilonesque, 90 000 emplois.
Oui, mais c'est inciter les gens à reprendre l'emploi alors qu'il y a des métiers extrêmement tendus et que quelque part on se demande quand même où est passée une petite partie de la manœuvre française. Je prends un exemple qui peut paraître très choquant. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'infirmiers qui pointent au chômage?
Non.
15%.
Alors que les postes
15% sont... dans la catégorie à Pôle emploi, vous avez 15% des infirmiers déclarés qui sont à Pôle emploi ou qui régulièrement pointent au chômage. Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas un petit problème en termes de santé, de personnel de santé. Ouais. Donc, c'est qu'effectivement, je suis désolé, je ne jette pas la pierre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement un côté incitatif. Alors, c'est parce que beaucoup d'infirmiers maintenant sont plus que libéraux, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment intérimaires, ils alternent entre les deux. Mais bon, bah voilà, quelque part, on a un problème de santé publique.
Oui, c'est clair, mais est-ce que pour répondre à ça, au lieu de se concentrer sur le fait que le chômage paye moins, est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur le fait que la formation soit mieux financée?
Mais ce sont des sujets différents, je crois.
Des sujets hyper complémentaires.
Oui, enfin, c'est ce aussi des situations dans lesquelles on peut retrouver un emploi. On peut aussi, effectivement, s'inscrire dans des formations. Il y a l'ensemble des... le crédit pour être formé, le crédit pour les personnels de formation qui existe. Enfin, il faut quand même, globalement, lancer un message qui est un message national, qui est que travailler et trouver sa place dans la société et dans le travail, c'est un modèle et c'est le cœur du modèle. Que ça soit pas le cœur du modèle lorsque, effectivement, il y a ce chômage endémique et qu'on s'adapte, soit. Mais quand on est en train de passer de l'un à l'autre, il faut vraiment propulser la société entière vers la valorisation du travail.
Jonas Haddad.
En revanche, là où je vous rejoins, Audrey, c'est qu'on n'a pas pris en compte la mutation du marché du travail. Oui. D'abord, aujourd'hui, vous savez, quand l'INSEE fait ses statistiques, il considère qu'un jeune qui se lance sur le marché du travail aujourd'hui aura 14 jobs. Oui. Il sera soit dans l'associatif, soit en moment entrepreneur, etc. Je rappelle, la réforme. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je vante la réforme de François Hollande compte personnel d'activité. C'était une très bonne idée qui a été confisquée par des sujets politiciens. C'était de dire, vous emporterez avec vous en permanence votre sac à dos social. C'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'il arrive, vous emportez avec vous, vous ne perdez pas vos droits formation, vos droits retraite, etc. Donc en fait, le marché du travail, demain, ce sera ça, avoir ce sac à dos social. Deuxièmement, et on peut le dire aussi par rapport à ça, le fait qu'on dise qu'aujourd'hui on a cette tenaille, cette pince, comme vous évoquez, à la fois sur l'indemnisation et aussi sur potentiellement le fait qu'on remette les gens au travail, ça on peut en parler des heures, ça pose la question qui est évoquée dans le secteur public de la semaine des 4 jours. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous durcissez les mécanismes sur les gens, les salariés du privé, plus vous allégeriez la façon dont les gens dans le public travaillent. Ça crée une forme de disparité et attention à ce que ça craque pas. Moi, je le dis parce que c'est l'idée tarte à la crème en ce moment, comme les 35 heures pendant un moment, alors qu'objectivement, on est en train de faire s'écarteler de marché du travail.
Et alors surtout que je précise aussi que les pays dans lesquels la protection contre la perte d'emploi est assurée par l'État, ce n'est pas financé par des cotisations, c'est financé par l'impôt.
Absolument.
Bien, dans la série, on cherche des gros sous. Qu'est-ce que vous faites de cette info de presse? Alors, vous savez que le gouvernement cherche des milliards, 20 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Et ce qu'on lisait dans la presse aujourd'hui, c'est que plusieurs députés dans la majorité poussent pour que l'an prochain, on désindexe tout simplement les retraites et les prestations sociales de l'inflation. C'est une sorte de one-shot qui pourrait rapporter, tenez-vous bien, jusqu'à 20 milliards d'euros, les précisément.
Les fameux 20.
Vous achetez ce one-shot par les temps difficiles? Pourquoi pas? Est-ce que vous achetez cette proposition pour...
Écoutez, je vais...
Ce qui, politiquement, est quand même très, très...
Me permettre d'avoir un avis qui est purement économique et pas politique sur ce sujet, c'est que la meilleure manière, on le sait bien, de ne pas alimenter la spirale de l'inflation, c'est que on l'a fait dans les salaires dans les années dans la fin des années 80-90, c'était de désindexer les salaires. Donc, à un moment donné, que l'on désindexe les retraites et les prestations, ça semble être logique, même dans une perspective de ne pas alimenter la spirale inflationniste. Donc, que ça permette de gagner 20 milliards par la même occasion et que ça freine la spirale inflationniste, économiquement, ça peut tenir. Politiquement, je ne sais pas si ça tient.
Alors, politiquement et socialement, parce que ne pas indexer les prestations sociales sur l'inflation, ça veut aussi dire rogner sur le pouvoir d'achat.
Ça ne veut pas forcément dire sur la totalité. Il faut regarder lesquelles.
Oui, d'accord, mais enfin, on voit bien que ça va forcément avoir une incidence sur les publics les plus fragiles. Alors que la promesse du gouvernement, c'est quand même précisément l'inverse, non ?
Jonas, je serais au départ un peu de votre avis. Après, la réalité, c'est qu'il y a des prix qui ne redescendront pas.
Oui.
Je vous prends des dépenses contraintes comme l'essence. Vous voyez même qu'au contraire, que d'ailleurs les sujets d'inflation en fait n'impactent pas. Alors ça, ce serait tout un débat philosophique de savoir pourquoi après derrière les producteurs ne baissent pas, mais il y a des dépenses qui sont contraintes et ces dépenses là c'est assez compliqué de pas voir que l'inflation progresse. C'est moins le cas dans l'alimentaire, ça c'est certain, ça s'est un peu calmé, mais encore. Deuxièmement, quand même, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens qui sont dans le marché de l'emploi, on parle d'acceptation sociale. Les gens qui sont au marché de l'emploi, notamment d'une certaine génération, peuvent aussi se dire ce serait bien d'arrêter en permanence de financer des gens qui sont en retraite, qui vont avoir leur retraite, etc., mais qui ne sont pas les plus actifs de la Terre, quoi. Vous voyez, donc ça peut avoir du sens.
Mais qui votent massivement.
mais qui votent plus tant que ça pour Emmanuel Macron. Voilà. Vous avez vu les derniers sondages.
Qui sont encore ceux qui votent effectivement pour
Emmanuel Macron. Même plus. Il est dépassé même dans cette catégorie-là.
C'est pour ça qu'on parlera pas de ça éventuellement avant les élections.
Je sais pas, mais voilà.
Cyril, est-ce que ça vous paraît logique d'aller chercher, d'aller taper un petit peu les retraités au portefeuille finalement?
Alors oui, dit comme ça, mais moi ça ne me choque pas, à la fois sur la durée, parce que ils ont bénéficié d'énormément de réformes, de coups de pouce ces dernières années, probablement pour des raisons électoralistes, et donc quelque part en masse globale, c'est pas absurde que eux aussi soient finalement remis un peu à l'équilibre par rapport à leurs bénéfices précédents. Ensuite, parce qu'il y a 18 millions de retraités en France, donc quelque part c'est quand même une mesure, certes qui rapporte beaucoup, mais qui touche énormément de monde, et donc finalement le coût marginal par personne, par tête, pas si élevé que ça. Par contre, mais ça c'est un autre débat, je crois pas qu'on résoudra le problème des finances publiques ou des déficits publics juste par des mesures one shot comme vous dites. Donc c'est probablement bien, parce qu'il y a quand même un sujet qui va devenir majeur, hein. Emmanuel Macron part en Allemagne dans peu de temps. C'est que pour l'instant tout le monde se fait des sourires, etc., parce qu'on laisse passer les élections, mais quand vous parlez à la Commission européenne, enfin les fonctionnaires, hein, pas les politiques qui sont bientôt plus là, mais je veux dire, le sujet qui va arriver bientôt, c'est que l'Allemagne va vraiment changer de ton à notre égard, l'Europe va vraiment changer de ton à l'égard de la France, donc ça va être très très tendu, vraiment tendu.
D'où les petits signes que nous sommes en train d'adresser peut-être.
Voilà, exactement, voilà, donc c'est politique.
Mais on peut pas ne pas profiter de ce sujet pour quand même dire que lorsque l'on est une entreprise et que l'on a un creux de vague, on sait faire des économies, de 1, de 2, de 3% sur son train de vie.
Ah bah là, oui, si le gouvernement était aussi bon gestionnaire, ça serait le niveau.
Non mais d'accord, mais je dois dire qu'effectivement, chercher sur ce type de solution les 20 milliards, c'est quand même, vous êtes meilleur en calcul que moi, mais par rapport au budget de l'État, c'est...
Ouais. Hein,
c'est pas...
Ce serait, pas ouais, ce
mais je suis quand même assez surpris par ce chiffre de 20 milliards.
Je dis jusqu'à 20 milliards, attention.
Ouais, ça me paraît quand même un peu élevé pour une non-indexation.
Lorsque Thomas Cazenave, donc le ministre délégué au compte public, en a parlé en Conseil des ministres, Emmanuel Macron aurait dit, je cite, il faut arrêter de sortir des mesures qui n'ont même pas été évoquées, sauf si vous voulez perdre les élections. La porte est refermée.
Pardon, un calcul, mais quand on sous-indexe de 1% par rapport à une inflation, si on a une inflation de 2,5 milliards. Ouais, ça rapporte. Donc 20 milliards, ça me paraît. Enfin, ce chiffre me
jusqu'à 20 milliards, me disait.
C'est marrant, l'inventivité permanente. Hein. Alors que les bureaux des ministres sont pleins de rapports d'où faire les économies. Enfin, je veux dire, il suffit de les ouvrir.
Quelques députés de la majorité, à part.
Ah oui, oui.
Voilà. Voilà pour ce dossier. Les gros sous, toujours. La recherche.
Oui, et puis voilà, on voulait redire un mot de logement avec ces chiffres qui sont sortis hier et qui nous disent que les besoins en nouveaux logements en France sont sous-évalués. Il en faudrait, en fait, 400 000 nouveaux par an d'ici 2030.
Ouais, étude conjointe de l'Union nationale des aménageurs et de l'École supérieure des professions de l'immobilier. Alors écoutez ce que disait ce matin le ministre du Logement, justement, Guillaume Kasbarian, qui voit au moins une bonne nouvelle dans le contexte actuel. Il dit, voilà, les taux de crédit se desserrent un peu, donc ça peut nous arranger. Écoutez.
et certain, c'est qu'il y a bien un secteur qui est concerné par les taux d'intérêt, c'est le logement. Et quand en 18 mois, vous avez eu une augmentation de 400 points de base des taux d'intérêt, ça a un impact sur la capacité des Français à acheter. Quand vous allez voir votre banquier, vous faites votre simulation à 1%, c'était le cas il y a 2 ans, c'est pas la même que quand vous avez une simulation à 4%, et tous les Français qui sont allés voir leur banquier le savent. Alors néanmoins, donc oui, les taux d'intérêt ont un impact significatif, pas qu'en France. C'est la même chose partout. J'étais en Allemagne la semaine dernière, mes homologues allemands ont exactement le même problème de crise du logement. Bon. Là, ça commence à aller un tout petit peu mieux. On a quand même des signaux encourageants. Les taux d'intérêt baissent. Ils sont redescendus sous la barre symbolique des 4%. Les banques nous indiquent que le robinet du crédit est ouvert. Et nous avons une augmentation de la production de crédit de plus de 70% par rapport à décembre dernier.
C'est donc plus facile d'emprunter.
Ça reste un niveau qui est bas, mais ça va un petit peu mieux et ça se retempe.
Mais il sait très bien que le problème n'est pas là. Il n'y a pas d'offre en face.
Et bah,
268 000 mises en chantier l'an dernier en France.
Pire année
depuis 30 ans.
On avait une crise de l'offre, une crise de la demande. La crise de la demande est en train de légèrement se résorber, comme ça a été dit, mais la crise de l'offre n'est absolument pas résorbée. En fait, il y a plusieurs critères là-dessus. D'abord, il y a évidemment nos difficultés structurelles, mais on s'est mis nos propres boulets au pied. Je rappelle quand même avec le ZAN, on n'en parle pas beaucoup, mais cette loi qui prévoit
On en parle beaucoup ici.
Zéro artification.
Oui, alors j'essaie de démocratiser ce terme-là. Zéro artification nette qui, en fait, contraint la masse globale de construction quand même dans notre pays qui a été votée par les députés de cette majorité, de ce ministre-là. Deuxièmement, les DPE qui sont très durs, tout le monde le sait sur les diagnostics. Et enfin, dernier point, le fait que comme il n'y a pas eu beaucoup de ventes, les promoteurs immobiliers, la moitié ont mis la clé sous la porte. Donc quand vous n'avez pas d'acteurs pour produire, et on a coutume de critiquer les promoteurs immobiliers, mais quand vous n'avez plus pour produire, vous n'avez plus pour produire. Et donc, résultat des courses, en fait, on a une demande maintenant qui va être là et on n'a toujours pas d'offres. Donc voilà. Et enfin, dernier point, et je laisse mes camarades compléter, c'était très justement dit dans les articles qui étaient relatifs à ça, c'est l'évolution des structures familiales. Quand vous êtes aujourd'hui de plus en plus de célibataires...
Desserrement des ménages.
C'est très joliment dit.
Ça, c'est très triste. C'est le vieillissement de la population et les divorces de plus en plus nombreux.
Voilà. Surtout en Ile-de-France.
Surtout en Ile-de-France et dans les grandes agglomérations. Cyril, une minute chacun à peu près sur ce dossier.
Alors moi, je vais faire un petit pas de côté ou prendre un peu de hauteur si je puis me permettre. Et ce que dit à un moment donné le ministre sur la situation en Allemagne est très important. Et je trouve que le logement, c'est le sujet majeur de l'Europe, et c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles l'Europe a aussi mauvaise image dans les pays et que l'extrême droite progresse autant. Et je suis effondré de voir que c'était absolument pas un débat. Alors je parle même pas de notre campagne qui est minable, mais c'est un vrai sujet. Mais sur des histoires idiotes, c'est-à-dire par exemple le logement étudiant quand vos enfants font des études, ce qui est le cas des miens, à l'étranger, c'est horrible. Et donc ils ont l'impression d'autres pays dont on est très proche européen que les méchants Français viennent leur piquer les logements parce qu'ils viennent étudier chez eux. Et en fait, c'est une source de tension considérable. Donc ce problème du logement, pardon de ne pas répondre directement à votre question, il est majeur.
Mais le MEDEF disait c'est un frein même à la réindustrialisation.
Il faudrait la nouvelle commission doit mettre un commissaire européen au logement en priorité.
Oui, absolument, mais c'est un sujet qui, pour le moment, ne figure pas dans les priorités.
Non, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec vous, c'est un problème politique au sens vraiment noble et général. C'est comme le numérique, certes, il y a un ministère du numérique, mais on sait tous que le numérique concerne la totalité des secteurs, et le logement concerne la totalité des secteurs, totalité des régions. Et on a l'impression, c'est quoi, ça fait trois ans, que l'on est devant une crise du logement qui ne fait que s'aggraver. On a l'impression, effectivement, que le truc est laissé en jachère. Et il n'y a aucun portage politique. Alors, il y a un projet de loi qui est en train d'arriver, que va porter le ministre, et on verra bien comment des solutions pourront émerger.
Qui ne va pas révolutionner les choses.
Mais non, le projet de loi ne va pas révolutionner quoi que ce soit, mais il va au moins donner l'occasion de mettre au niveau politique un sujet qui était, diffus, mais qui est effectivement un problème majeur dans notre pays.
Voilà pour cette crise du logement, dont on reparlera sans doute évidemment sur BFM Business. Allez, 3 minutes avant la fin de cette émission, c'est l'extra time, comme tous les soirs. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, enfin à peu près 30 secondes toujours.
Allez, qui se lance?
Léonidas avait la main, alors.
Bon, écoutez, volontiers, mais je me permettrai de redire ce que je disais tout à l'heure, et je le dis en plus en assumant totalement que je rassemble une bonne vingtaine de sociétés de la technologie numérique française et européenne dans l'Open Internet Project, et que l'on a des membres qui sont quand même très très étonnés de voir des acteurs comme Microsoft qui font l'objet d'enquêtes pour abus de position dominante, qui vont être déclenchées par Bruxelles et à qui on vraiment on déroule le tapis rouge. Il y a un moment donné où il va falloir concilier notre volonté d'accueillir des géants qui investissent et notre volonté d'avoir une souveraineté numérique qui tienne la route.
Le coup de cœur, le coup de gueule, pardon.
Le gueule, oui, oui. Ça, c'est dit. Voilà. Jonas Haddad, vous emboîtez le pas.
Alors, moi, j'ai un coup de cœur par rapport à ce qui a été annoncé depuis hier sur l'intelligence artificielle, puisque je pense, et on revient au début du débat, qu'on peut faire de la France le pays leader de l'IA. Plusieurs raisons pour ça. D'abord, alors, on est très fort là-dedans, mais on va accueillir un nouveau sommet qui va faire de Paris la capitale de l'IA en 2025. Encore un sommet. Deuxièmement, on a de plus en plus de data centers qui peuvent s'implanter chez nous. Pourquoi ? Parce que grâce au nucléaire, je le dis quasiment à toutes les émissions, on a une énergie qui est peu chère et qui pourra être utilisée. Enfin, troisième point, l'État vient d'annoncer un nouveau fonds sur l'IA. Et donc, on a l'écosystème nécessaire pour faire en sorte qu'on devienne, au moins en Europe, on verra pour le monde par la suite, le leader de l'intelligence artificielle.
Et eh ben voilà un coup de cœur.
Voilà. Est-ce qu'on aura un deuxième coup de cœur ce soir, Cyril, ou un coup de gueule? Non.
Alors, moi, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Bon. Je laisserai en juger. Et pardon, parce que c'est un petit peu technique, mais je trouve ça assez intéressant. C'est le fait que le gendarme boursier américain, la SEC, va probablement autoriser des ETF, des fonds synthétiques sur la crypto-monnaie Ethereum. Et alors ça, moi, ça me fascine. Donc, en gros, ça va drainer beaucoup d'argent d'investisseurs particuliers qui vont acheter des ETF pour copier une monnaie. Donc en fait, on va des fonds synthétiques qui vont copier une monnaie artificielle. Donc il y a deux manières de voir les choses. Soit on est en train d'inventer un nouveau concept économique, c'est fascinant. Soit on est en train de refaire une bulle réglementaire et avec qui va s'effondrer derrière. Et ça, c'est effrayant que la SEC l'autorise.
Un monde parallèle. Oui.
Je le verrais plus comme un coup de gueule, moi, personnellement.
Je pense, mais peut-être aussi que c'est une innovation qui va tout révolutionner.
Complémentarité entre nos trois interventions, parce que ça rappelle la nécessité d'avoir un peu nos règles et d'être capable de sanctuariser un peu ce à quoi nous tenons, et de ce point de vue-là, tant mieux que l'on structure notre souveraineté et faisons attention à ne pas être totalement submergé par des règles ou des non-règles qui ne sont pas les nôtres.
Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés. Cyril Lachef, fondateur de l'agence Silence, Jonas Haddad, vice-président, porte-parole de la Fondation Concorde, Leonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci, messieurs, à très vite, avec grand plaisir, pour de nouvelles aventures. 19h56, c'est fini.
Eh oui, c'est terminé. Ceci dit, le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com sur toutes les plateformes et en replay et en podcast. Et puis bien sûr, on se retrouve demain soir.
On se retrouve demain soir, 18h pour nouvelles aventures. Tech & Co depuis Vivatech, Port de Versailles, avec François Sorel et toutes les équipes. Dans un instant, très bonne soirée. Sur
à demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.